We always thought alien life would come from the stars. But it came from deep beneath the Pacific.
What the hell is going on?
Les podcasts de Doc. Pantatus.net.
Floui. Les poulpettes, les poulpes chefs de gare, les poulpes aux tendeurs, les poulpes couverts de charbon, les poulpes au marchepied, les poulpettes. Bon, enfin voilà quoi, chouchou comme on dit, et chouchou des sprites.
Ftagne à tout le monde.
Et oui, car dans le train qui nous emmène ce soir sur les rails du poulpcast, je sens qu'on va faire plein de. Je vais faire plein d'images basiques. Je suis avec mon dénommé comparse des sprites et quelques invités de talent qui parleront ou ne parleront pas ou qu'on coupera au montage. En les personnes de Dark Keeper, Prince Noir et Shining. Bonsoir messieurs.
Bonsoir.
Oui. Donc, oui. Comme vous devez le savoir, si vous écoutez ce podcast ou alors vous allez le découvrir, déjà, je vais essayer de reprendre la bonne habitude que j'ai prise l'autre fois. Nous sommes le 16 septembre 2014. On doit être autour du 30e podcast. Et oui, 30. Et donc ce soir, on va pas faire la Java. Ce soir, on va parler d'une campagne mythique. On aurait pu la caser dans les précédents podcasts, dans cette marre des masques. Mais Desprite n'a pas voulu parce qu'il a dit que sinon on en avait marre des masques qui étaient très linéaires, on en aurait forcément marre de Terror sans Desprite.
C'est pas faux.
Donc. Nous allons parler de Terror sur l'Orient Express, autrement appelé Horror on the Orient Express in the language of McDonald's. Et car, si vous ne le saviez pas, une version française vient d'être, va être, et, ou, est en train d'être éditée par Sans Détour, suite à la même je dirais, opération du côté de Chaosium, qui a édité une nouvelle version. Je ne sais pas d'ailleurs si elle est dispo encore la version américaine. Je suis pas sûr encore. Parce que je pense qu'il y a il y a Dustin Wright et tout ça qui sont en train de faire les. Et Charlie Crank qui sont en train de faire les boîtes. Donc le principe de ce podcast, ça va être un peu de faire les pour et les contre, les pros et les cons de cette campagne. Vous allez rapidement découvrir, je vous le dis pas, mais vous allez rapidement découvrir de qui. Enfin, de qui il s'agit entre Desprite et moi. On va commencer un peu par les actualités, hein, t'es d'accord Desprite?
Ah oui, carrément, oui.
Donc, première chose, bien sûr, vous êtes sur un podcast de Toc, donc, oreille chaste, ou alors gens bien pensants et mou du genou, s'abstenir. On va dire des vraies choses et on va essayer de donner des avis.
Oui. À ce stade, je pense que c'est aussi important de dire que passer les actus, ça va spoiler vraiment méchant.
Ah ouais, ouais,
donc,
ouais.
Joueurs, passez votre chemin, ça serait dommage.
Parce que je m'étais dit, est-ce qu'on pourrait faire une séparation, mais ce serait quand même assez délicat. On essaiera peut-être de parler un peu du côté joueur, c'est pas une mauvaise idée au début.
Ben, à vrai dire, je savais même pas si j'allais parler du spoil, étant donné qu'il y aura probablement beaucoup de joueurs à cette campagne.
T'es salaud, non, normalement, on devait garder le suspense sur qui défendait, qui pourrissait.
Ah, mais ça veut rien dire.
Donc, on vous le rappelle, on vous l'annonce, la campagne de Sans Détour donc, va être commercialisée sous deux formats. Un format boîte classique, je crois, à 109€, avec trois gros livrets, plus un livret d'aide de jeu, plus des posters, des Mickey, des conneries pour les fanboys, et une version collector, je crois, en peau de agent de la SNCF. Non, je sais plus s'il y aura dans la version collector. La boîte sera plus jolie, il y aura peut-être des aides de jeu, des... Je sais plus, tu sais pas des sprites, non?
On parle bien de la version française, hein?
Ouais, la version française. J'ai plus la version collector, ce qu'elle aura de plus.
Alors, écoute, ouais. Il me semble qu'il y aura un authentique caméléon chanteur. Dressé.
Quand on lui presse sur le ventre, c'est comme les poissons au-dessus des cheminées.
Oui. Non, je vais regarder pendant ce temps.
Pendant ce temps-là, donc, un truc m'interpelle quelque part, comme dirait l'autre, c'est le coût des 109€. Alors que le bouquin vale 109€, soit. Ça me paraît un peu beaucoup, mais soit.
Oui,
mais le problème que ça me pose, c'est la défense des gens, notamment sous les formes de TOC ou autres, qui répondent aux gens qui disent que c'est un peu cher, qui disent ben si t'as pas la thune, tu le joues pas. Alors.
Oui, c'est vrai que c'est pas très élégant.
Je suis pas très bon en histoire, mais cette ségrégation,
ouais.
c'est pas génial, quoi.
Non,
parce que le nivellement par l'argent pour jouer à des scénars de. Ça serait des scénars démentiels, des trucs de ouf, avec des aides de jeu de malades. Que par exemple, moi, les montagnes hallucinées en version collector, c'était vraiment dément avec la boîte et tout.
Avec la boîte, ouais.
La caisse en bois.
Numéroté.
Que moi, je puisse pas me la payer, soit. Mais, j'ai envie de la jouer. Je m'appelle pas forcément Christian Lehmann ou je sais plus comment il s'appelle. Je ne veux pas forcément des aides de jeu vivantes. J'ai peut-être envie juste d'un bon bouquin. Bon, allez, on va dire une belle campagne. Allez, 80 euros. Avec une boîte. Ouais, c'est une belle boîte. Une belle boîte à 80 euros. Ok. Limite. Mais là, que des gens disent. Alors, enfin, je sais pas ce que t'en penses, Desprite. L'argument du si c'est cher, si tu peux pas te la payer, bah, tu les joues pas. Et...
Écoute, je sais pas, tu as lu cet argument, ça a été évoqué, parce que c'est quand même assez effarant comme.
Dans les forums, ouais. Je crois que c'était Azir Rafal, d'ailleurs, ça m'a étonné de lui. Et je crois qu'il a dit bah, t'as 16 autres manuels à faire, t'as plein de trucs que t'as pas joué, donc t'as qu'à les jouer.
Alors, écoute, moi j'avais lancé personnellement l'idée, parce que tu sais ce que je pense de cette campagne. mais néanmoins, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que faire l'économie d'une version straight avec juste ce qu'il faut pour jouer sans les aides de jeu, c'est difficilement compréhensible. Alors après, c'est peut-être un positionnement marketing spécifique de Sans Détour, puisqu'ils savent que c'est une campagne de merde. Oh, pardon, excuse-moi. Non, je parlais à un mec dans la piole. Non, vas-y, je veux pas de café, tu peux sortir. Hein, j'enregistre. puisqu'ils savent que c'est une campagne qui disons, de nostalgique. Et on va dire de
gens qui ont potentiellement les moyens.
De collectionneurs. Ils ont volontairement placé un prix d'entrée relativement haut. Comme ça, ils seront à peu près sûrs de rentrer dans leurs frais. Non, là, je suis spéculatif. Hein, je suis vache. Gardez ça.
La version collector s'est arrachée. Hein.
Ben voilà en fait, mais on pourra peut-être y revenir par la suite. Je vois de plus en plus dans le public qui se prétend rôliste trois tendances, les lecteurs, les collectionneurs et les joueurs. On peut être un peu de l'un ou de l'autre de ces catégories, voire les trois en même temps, ça pose pas de problème, mais visiblement, enfin, ce que je ressens, c'est que c'est un produit qui s'adresse avant tout aux collectionneurs, principalement les nostalgiques, ensuite les gens qui aiment le beau matos, parce qu'il faut reconnaître que c'est du très beau matos.
Oui, c'est clair.
Ensuite, peut-être les lecteurs, mais j'ai pas l'impression qu'il y a un positionnement spécifique. Et je pense en dernier lieu pour les joueurs. Parce que si c'était une campagne qui se jouait, elle aurait été éditée dans un format propre au jeu, voire même un format straight. Et là, pour en venir à ce qu'on disait tout à l'heure sur la différence entre la version Deluxe et la version straight, donc la version straight, il y a déjà un guide touristique, il y a des affiches d'époque, c'est déjà des goodies qui sont appréciables, disons en termes de d'ambiance méta. Hein,
ouais, c'est clair.
Mais pour la version Deluxe, tout ce qui vient en plus, ce sont quasi exclusivement des aides de jeu, on va dire esthétiques. Il y a 6 cartes postales, 6 passeports qui ne servent quasiment pas, enfin disons que c'est pour du méta-jeu, dispensable. On a une carte d'embarquement, idem, hein, c'est une sorte de goodies souvenir pour les joueurs, enfin c'est vrai, hein. Oui. Des modèles de Telegram qui vont, enfin, dans la version que moi j'ai connue, qui vont pas grandement servir, puisque ça va être probablement les joueurs qui vont s'en servir pour envoyer des télégrammes à des tiers. Donc c'est un peu voilà.
Il y a même pas de simulacre en carton.
Alors je n'ai pas vu de traces de cette aide de jeu qui était présente dans la version précédente de Chaosium. On avait un simulacre en carton en découpé, qui était pas trop grotesque encore, hein. C'était sympa, sauf si tu mettais des attaches parisiennes et des ficelles dans le dos. On a une carte de l'itinéraire grand format. Alors ça c'est une aide de jeu où je me dis ok, là ça peut-être servir pour que les gens visualisent bien au cours de la campagne vers où ils vont aller. Et enfin, il parle d'aide de jeu de la campagne clé en main. Mais alors là, je ne sais pas de quoi il parle. Je ne sais pas si c'est vraiment les aides de jeu qui sont présentes dans le bouquin, les journaux,
pense,
les,
ouais.
les notes, ouais,
les coupures de presse, je sais pas, ça je pense.
Si c'est le cas, il y a un véritable intérêt à avoir l'édition de luxe. pour ceux qui sont
Ouais.
allergiques aux photocopies et qui aiment le beau matos. Mais pour le joueur strict, disons pour le rôliste qui est pas trop collectionneur, pas trop lecteur, il manque vraiment une version strict bouquin, point.
Ouais.
Pas de poster, rien du tout. Je sais pas ce que vous en pensez, les mecs.
Complètement d'accord. Et je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression que le bon, c'est pas une impression, le format ne suit pas déjà la ligne éditoriale qu'avait fait Sans Détour. Donc on est plus sur une bande en haut, une bande en bas, une illustration milieu avec un morceau d'illustration qui sort du cadre, que personnellement j'adore ce format-là. Et en plus, j'ai l'impression.
Ils sont rapprochés de la version des masques, je pense. Non? Ça, en boîte, avec juste une illustration sur la tranche.
Dark Keeper, tu peux me dire où est-ce que tu as vu des pages de l'édition? Parce que moi j'ai pas vu la maquette, je sais pas où tu l'as calée.
Si, c'est surtout la tranche, il parle du bouquin Dark Keeper,
Oui,
je
je
pense.
parle de la
Ah,
couverture, parce
d'accord.
que comme toi, je suis sur le site de Sans Détour, je
Ouais.
regarde juste les photos que j'envoie. Je sais pas s'ils ont un extrait. Oui, regarde sur le site de Sans Détour, tu as
Oui.
extrait du titre Aide de jeu. Eh bien, je t'invite à aller voir dedans, comme ça on va un peu voir ce qu'il y a. Mais rien qu'à la couverture, on voit qu'ils ont voulu, je pense, faire quelque chose qui se démarque du reste pour attirer d'autant plus les. Mais je suis pas sûr que je pense qu'il. J'aurais bien aimé une édition qui va dans la continuité de la collection, ne serait-ce que pour ceux qui se contentent d'acheter les bouquins. Et
Ouais.
la ligne éditoriale, ça sert à ça aussi, à voir la continuité de la chose. Alors, un bouquin en bleu clair qui risque de faire tache,
Bon, ils
c'est
ont respecté la
dommage.
couleur qui enfin le bleu étant associé si je me trompe pas aux campagnes
Oui.
hors Nyarlathotep qui est en fascicule, mais par exemple les montagnes hallucinées étaient en bleu, donc ça c'est il y a un respect. Mais t'as tout à fait raison, j'y avais pas pensé. Si tu veux tenir une collection dans une bibliothèque, par exemple, c'est vrai que ça dénature. Et j'ai l'impression que la boîte est assez grande. Je ne sais même pas si elle respecte le format A4 ou approchant.
Ouais, je pense, je sais pas tenir. Ouais. Bon, enfin, le fait est que, pour rebondir un peu sur cette problématique, elle en soulève une autre, le fameux projet de Quick Starter. Ah oui, alors déjà, première chose, c'est que les Américains, on en avait parlé au dernier podcast, ils vont avoir une version toute moisie, avec des illustrations toutes pourrites.
Oh.
Et eux, par contre, enfin, et puis même il y a des Français, hein, moi j'ai vu la liste, ils ont participé au Quick Starter.
Tu vas balancer.
Oh non, ça se fait pas. Je vais pas citer de nom, mais de toute façon, ils sont dans le bouquin, dans la préface, donc vous pourrez les voir si vous jamais vous jetez un œil à la boutique, à votre boutique préférée, vous verrez la liste de ceux qui ont participé. Donc nous, encore une chance, je dirais, je touche du bois. Et on échappe au Quick Starter pour les parutions. Mais vous avez forcément entendu parler du lacre grandeur réelle, car, comme on dit dans le milieu, une campagne, ça se joue avec le real aide de jeu. Donc oui, car si vous ne
Évidemment.
le saviez pas, si après avoir payé les 149 euros, il vous reste environ 30 000 euros, eh bien, Christian Desmans peut venir vous livrer chez vous. Hein, habillé d'époque avec une dame qui ne sait pas parler anglais, il peut venir tout à fait lui-même vous livrer donc une espèce de statue. Alors bon, c'est un style pour que vos joueurs jouent. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de la faire durer, hein, parce qu'il va falloir rentabiliser, puis
Bon.
à la limite, faites un petit droit d'entrée. Moi, ce
Et
que je vous conseille, c'est moi, si j'avais 32 000 euros à claquer, je l'offrirais à un ami, ne serait-ce que pour voir sa gueule quand il verra le livreur sonner chez lui, et lui offrir une statue grandeur nature d'un simulacre qui sait probablement pas ce que c'est.
va dire, il faut être copain avec Dark Keeper, ça c'est important.
Je n'ai pas 32 000 euros, je suis désolé. Alors, au-delà du fait qu'il y ait des gens qui peuvent claquer 30 000 euros, là aussi, ça me dérange pas. Je suis pas un critique d'art, ça vaut 30 000 euros, je sais pas combien, pouf pouf, ok. Par contre, émettre le fallacieux prétexte que c'est pour le bien des rôlistes et qu'on ne peut jouer qu'avec un simulacre réel et que, soit dit en passant, sous une espèce de forme d'association de bienfaisance, les joueurs se regroupent, mettent tous la main au porte-monnaie pour s'acheter les aides de jeu, alors là on sort du spectre, on est passé dans une autre dimension. Déjà, un, on joue de plus en plus en connecté. Donc on joue avec des gens, pouf pouf, ils arrivent. Enfin, on a l'époque du j'ai mon groupe. Je pense qu'à l'époque de Christian, hein, qui est quand même un peu plus âgé que nous, ça se faisait encore, à mon époque aussi, mais à l'heure
Ouais.
actuelle, c'est quand même un peu plus dur. On rassemble pas de la thune, ou alors dans une association, je vois mal une association de quartier mettre 30 000 euros pour se choper la teub du simulacre. Enfin, derrière le truc, moi ça me dérange pas. Le seul truc, c'est essayer de justifier ça comme étant un apport à la communauté rôliste, et puis dire, enfin, mettre un peu les gens, genre, dans le style, enfin, dans le style, oui, si tu comprends pas, c'est que t'es pas un vrai rôliste. J'avais un peu l'impression d'entendre ça dans le discours de la personne qui est venue défendre courageusement, il faut l'avouer, la chose sur les formes de toc. Alors, je sais pas, ça c'est. Autant des belles aides de jeu, je serais le premier à être intéressé, tu vois. Le simulacre en petit, démontable, tu vois, un truc sympa que tu peux peindre. Je dis pas non, tu vois, tu mets, je sais pas, 100 euros, et puis t'as un petit simulacre en plastique, une petite statuette où tu peux clipser les bras, machin, au fur et à mesure de la campagne, pourquoi pas? Tu vois, j'aurais bien acheté la même chose, 50 euros pour chacune des pierres du destin dans la campagne de Warhammer du même nom. Pourquoi
Ouais.
pas? Le marteau de Sigmar pour la campagne de l'ennemi intérieur. Petite reproduction
Ouais.
sympa. Pour faire fun, je dis pas.
Bon, c'est très
Mais
goodies.
voilà. Mais là, ben justifier un truc énorme comme ça en disant, pour vraiment que la campagne prenne tout son sens, c'est là-dessus. Je sais pas, j'aurais plutôt fait une reproduction. Moi, perso, j'aurais fait une reproduction d'un wagon. Tu sais, sur une petite maquette, quoi. Ça,
Ouais.
ça aurait été sympa. Ah non, pour
Pourquoi pas?
32 000 euros, excuse-moi, t'as pas un wagon taille réelle. Attends, là, faut pas se foutre de la gueule du monde.
Non, non, non. Pour 32 000 euros, je veux que Fenalik vienne me servir le thé à table. En m'appelant monsieur.
Et qu'il arrive sous forme de fumée.
En tenue de soubrette.
Antoine Soubrette. Donc voilà, comme vous pouvez le comprendre à nos rigolades, derrière la sortie de cette campagne, qui reste ce qu'elle est, il y a eu des petits à côté un peu fun, ce qui nous a amené à nous dire pourquoi pas en discuter, parce que en plus.
Attends, attends,
Oui?
juste, bon, il faut quand même que, enfin, tu sais, le gars qui défendait donc le Kickstarter sur le simulacre,
Ouais?
il a fait un très très long texte. Je ne l'ai pas lu en entier parce que la forme m'a arrêté. Je ne connais pas le contenu de ce texte, mais je voulais juste savoir, est-ce que, parce que tu sembles dire qu'il prétend que c'est vraiment quelque chose qui rajoute un gros gros plus à la campagne quand on a le simulacre.
Ouais, ah oui.
Est-ce que d'autres l'ont lu? Est-ce qu'ils en retirent la même chose?
Non, c'est clair que c'est indéfendable, quoi. La manière dont c'est fait,
Non
déjà,
mais.
je pense qu'ils n'ont pas bien compris comment ça marchait, tu vois, ces projets de financement, parce que mettre un palier à 30 000 euros,
Mais toi, ce que veut dire des sprites, Prince Noir, c'est est-ce que pour toi, c'est le mec défendait bien son truc dans les forums? Est-ce que pour
Enfin,
toi, ça
quels
te
étaient
dérange?
ses, en fait,
Non?
quels étaient ses arguments? Parce que moi, j'avais l'impression que le mec disait, on est des passionnés, ce qu'on fait dans ce Kickstarter, ça peut intéresser les gens, souscrivez si vous le souhaitez. J'avais pas l'impression qu'il disait, vous devez avoir ce truc parce que ça va vraiment changer votre expérience de jeu. Mais comme j'ai pas lu ce texte en entier, je vous pose la question.
Ah si 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 il l'a dit parce qu'il l'a dit vous le
D'accord.
laissez dans la pièce où vous jouez en plus il disait vous le laissez dans le noir. Truc à 30 000 euros, je le laisse pas dans le noir, hein. Je mets des spots, je mets une guirlande de Noël et tous les mecs ils viennent lui baiser les pieds à chaque fois qu'on arrive en session, quoi.
Alors attends, et pour 25 $, tu pourras quand même avoir une photo du simulacre, hein. Ça serait pas mal.
Alors, bien sûr, comme d'habitude, j'exagère, mais bon, le mec, ses arguments, c'était. Non. C'est-à-dire que. Déjà, le type, on est dans un forum, il balance 500 lignes. Déjà, le type, il n'a pas très bien compris comment ça fonctionnait. Il débarque avec ses arguments-là bizarroïdes en disant il faut se mettre tous ensemble pour acheter les aides de jeu, pour pas que ça fasse trop de coûts pour le maître de jeu et tout ça. Enfin, c'était bizarre. J'ai trouvé ça bizarre, j'ai pas trouvé ça.
Je crois que c'est toi, Prince Noir, tout à l'heure, qui a dit que c'était peut-être mal ficelé, ils étaient peut-être venus un peu
Oui.
chaud sur Indiegogo, parce que c'est là où il y a ce Kickstarter, hein,
Tout à fait, ouais.
Indiegogo.com. C'est peut-être ça, peut-être qu'ils se sont tout simplement fait dépasser par l'ampleur du projet et les coûts que ça a généré, et du coup, ils ont dû trouver sur le tard une argumentation commerciale, le coût du acheter-le avec vos potes, vous verrez, c'est génial. Sous cet angle-là, ça se défend. Non, mais enfin, je veux
Non,
dire,
c'est vrai, tu as parfaitement bien résumé.
il y a des
À
gens
mon
qui
avis,
sont
c'est une
embarqués,
maladresse. Au
quoi.
départ, c'est une maladresse.
Ça m'avait l'air d'être des passionnés qui vraiment aimaient la campagne. Enfin,
Mais t'as pas tort, des sprites, c'est vers la fin de son message, c'est ce qu'il reconnaissait. Il reconnaissait
Ah ouais?
qu'il, d'un point de vue forme, oui, pour l'avoir lu, moi, il disait qu'il n'avait pas tout, enfin, pas au bout du compte, mais je crois qu'il s'y était repris à deux fois, non, ou un truc comme ça, je sais plus. Enfin, le type disait qu'il était un peu cherché sur comment le financer et ils avaient trouvé cette solution la moins mauvaise. Enfin, le type essayait d'avoir des arguments, il y en avait qui étaient recevables, quoi. Mais le
C'est vrai que moi je
côté.
l'avais attaqué sur le côté, c'est qu'il y a une différence si tu veux entre le financement, le fait de participer un petit peu au projet, et le mécénat. Parce qu'à 30 000 euros, quoi, le mec il veut carrément se faire financer, quoi. C'est pas. On n'est plus dans un projet habituel, quoi.
Ouais. Donc voilà, autour de cette campagne, vous voyez une certaine effervescence des médias. Et comme Tonk aime bien quand il y a de l'effervescence parce que ça fait roter les bulles, on s'est dit, on va faire un pull test pour vous dire, est-ce qu'il faut dépenser 30 149 euros pour acheter le simulacre et la campagne?
Attends, de toute façon, celui qui a sorti le meilleur argument, c'est toi, Vong. Hein. T'as quand même sorti ce que tu nous
Ah
as dit déjà
oui.
sur le forum,
Ah
c'est payer
merveilleux.
30 000 pour se retrouver à quelqu'un avec qui tu tritues. Comment t'as dit ça?
Alors, mais c'est le problème, c'est que mes joueurs sont des bons joueurs, y a pas de souci. Mais même mes joueurs qui sont des bons joueurs, après 8 heures de partie, après peut-être 50 séances, parce que c'est vraiment une grosse campagne, je suis sûr qu'il y en a un petit peu fatigué qui, comme il pourra mettre la main dans son version tataillée pour la faire parler, il essaiera de faire lui tripoter le zgeg, quoi. Ouais, non, non, truc. Donc, et puis je sais pas vous, mais sans même parler de cet aspect-là, typiquement, déjà une aide de jeu, bon, si c'est une feuille ou un document, les gens vont le regarder, le poser. Si c'est une figurine, bordel, ils vont passer leur temps à se le triturer, ils écouteront pas le jeu, ça sert à rien, quoi. Là, je suis d'accord. Mais bon. Enfin, le fait est que, donc, on va rentrer dans le vif du sujet, parce que là, on a quand même bien rigolé.
Oh.
Et donc, on va
T'as fait
attaquer
de nouveaux
le.
amis aussi.
Voilà, encore, bah oui, j'en ai plein. Et encore. Non, ils m'aiment dans le fond, ces gens-là. Donc, on va commencer avec des sprites, essayer de défendre et démonter cette campagne. Juste pour faire un petit peu un tour de table, toi, Dark Keeper, tu nous disais que tu ne l'avais ni lu, ni joué.
Voilà. Donc,
De ton côté, Prince Noir, toi, tu.
alors lu l'original seulement, jamais joué.
L'original, ok, et toi de ton côté des sprites.
Je l'ai lu deux ou trois fois et j'ai jamais réussi à les faire jouer.
D'accord, mais tu t'es déplacé pour être gardien dès le départ. Moi, en
Ouais.
réalité, je l'ai. Oui,
Et
pardon,
moi, je l'ai
vas-y.
joué.
Parce qu'il y a
Ouais, je
Fox.
suis arrivé.
Tu l'as joué ou
Bonjour.
fait jouer, Fox? Salut.
Je l'ai fait jouer, ça va? Ouais, je suis arrivé.
Tu l'as fait jouer.
Je l'ai fait jouer, ouais.
Tac. Et moi, de mon côté, en réalité, je l'ai d'abord joué en tant qu'investigateur. Et puis je l'ai lu après. Donc je ne l'ai pas maîtrisé. Donc c'est pour ça que ça va être intéressant, on va avoir pas mal d'avis. Donc pour résumer, pour l'instant, normalement on n'a pas trop spoilé, on a fait des remarques, mais normalement ça vous a pas gâché la vie. On va juste passer un petit peu le côté joueur. Je pense que sans essayer de trop dévoiler, le fait est que si votre gardien vous dit on va jouer Terreur sur l'Orient Express, bon, comme on l'avait dit l'autre fois avec Dark Keeper et puis Prince Noir, donner le nom d'une campagne avant de la faire jouer, comme le nom de la campagne porte très souvent sa finalité, c'est pas forcément facile après, mais le fait est que si on vous a dit on va jouer Terreur sur l'Orient Express, on peut vous en parler un petit peu parce que vous vous doutez que ça va être terrifiant et que ça va se passer entre l'Orient et l'Express. Donc, pour faire bref, le pitch, comme on peut le voir d'ailleurs sur la fiche, la couverture, soit dit en passant, le fait d'avoir utilisé le logo du Simplon Orient Express rend les bouquins hyper classe et sans détour, je trouve.
Ouais, c'est vrai.
Franchement, la couleur simili-cuir avec le truc gravé version or, oh la vache, putain, ça défonce, hein.
Super beau. Très beau boulot.
Mais donc le fait est que vous vous doutez qu'il y a de très fortes chances que la campagne tourne autour donc du fameux train, le Simplon Orient Express. Alors sachant que l'Orient Express en réalité il y en a plusieurs, hein, parce qu'ils avaient des destinations un peu différentes. Mais donc cette campagne va être, comme dirait quelqu'un que je connais qui s'appelle des sprites, va être donc sur des rails. C'est en réalité bien qu'il puisse partir d'un endroit à un autre et tout ça, là vous allez suivre en réalité un de ces parcours. Je vous dis pas encore parce qu'on n'est pas dans le mode spoil, donc je vous dis pas où. C'est une campagne qui date des années 90, 80, 90, donc il faut le savoir, c'est pas non plus la révolution du narrativisme, c'est pas non plus la narration partagée. Hein. C'est-à-dire que on vous dit que c'est l'Orient Express, rapidement vous allez comprendre que c'est l'Orient Express, quoi. C'est pas là, c'est pas une tante qui a une maison ou alors qui a un billet à vous léguer sur l'Orient Express, mais c'est pas loin. Hein. Faut être honnête. Je sais pas ce que t'en penses toi de ton côté des sprites, mais assez rapidement on est dans le bain.
Oui, oui, qu'on le veuille ou pas. allez, la bande de connards, avancez là, rentrez dans le train.
Il faut écouter des sprites, quoi. Enfin, comment on peut apporter crédit à ce mec-là? On lui fait jouer une campagne terreur sur un T-Sprite.
Une petite citation?
Il veut pas monter dans le train. Ouais. Ah ben moi j'aime pas le train, je veux pas monter. Bon.
Enfin, ça sent méchamment quand même le crossover avec Artum Cthulhu, tout ça. Hein.
Alors, à quel niveau tu veux dire?
Monter dans le train, tout ça, bon, c'est pas très fin. Mais...
Oh là là. Ah non.
Avec un signe des anciens sur la poitrine, c'est ça?
Exactement.
On va voir le premier ministre sur le dos.
C'est ignoble, c'est ignoble.
J'avais pas pensé à cette... Pourtant, j'ai l'esprit mal tourné, mais j'avais pas pensé à ce truc-là. Mais oui. Donc non, en effet, contrairement à ce que sous-entend Dark Keeper, qui vous avez compris, et du côté de ceux qui n'aiment pas la campagne... Ce qui est très mal. Donc, en réalité, ce train ne vous mène pas vers l'enfer, mais vers le nirvana, vers le bonheur. Le bonheur d'avoir accompli une campagne ô combien agréable. Et ô combien, derrière des dehors linéaires, elle peut être truffée de non-linéarité, voire même d'improvisation. J'aurais dû couper. Enfin, le fait est que voilà, on va pas pouvoir non plus trop parler sans spoiler, donc je pense que là, pour les joueurs, à moins qu'il y ait quelque chose à ajouter des sprites, mais le fait est que, soyons très honnêtes, si vous aimez les trains, faites-la, c'est sûr. Si vous êtes fan de trains, si vous avez des vieilles locomotives Fleischmann à 150€, allez-y. Si vous aimez le luxe, allez-y. Si vous avez aimé l'espion qui m'aimait, le James Bond... allez-y, si vous avez aimé le crime de l'Orient Express, faites-la. Et si on vous la propose, déjà c'est que le mec il a dépensé, il a dû mettre sa maison en viager. Donc allez-y quoi. Si vous aimez les trains et si on vous propose, allez pas refuser quand même une expérience. Maintenant, on va être obligé de passer du côté maître, savoir est-ce qu'il faut acheter cette campagne, envoyer les investigateurs. Et rendez-vous à la prochaine gare. Et puis si vous avez des expériences de joueurs, n'hésitez pas à les donner dans les forums. Donc on passe en mode spoil pour un peu décrire la campagne. Je te laisse un peu la main pour la description du début de la campagne, Desprite.
Es-tu bien conscient de ce que tu me demandes?
C'est pour voir ton objectivité, donc, ouais. Sa grandeur.
Bah écoute, déjà je vais faire peut-être des remarques un peu méta par rapport au à la campagne. Déjà, ce qu'il faut savoir c'est que dans un premier temps, on ne va pas forcément s'atteler à critiquer positivement ou négativement la nouvelle édition dans les bacs chez Sans Détour. Ça, il faut bien le savoir. Si vous voulez savoir ce qu'il y a de nouveau dans la campagne, c'est pas ce qu'on va faire dans un premier temps, en tout cas. Mmh. Donc on va partir sur une base de la première édition française qui est sortie en 94 en livre glacé, relié correctement. Avec plein d'aides de jeu cartonnées.
Ouais, c'était de la reliure cousue, ouais, c'était du gros bouquin.
Ouais, ouais, c'est ça, 231 pages, avec une illustration de couverture qui spoil la fin de la campagne. Ouais, on va partir là-dessus. Alors, ce que je peux vous dire, déjà sur le format, je vais commencer à être un peu personnel. Le bouquin, comme tu disais, il est broché, relié. Les feuilles ne sont pas volantes, donc c'est plutôt assez agréable. On a des paragraphes très synthétiques sur le début qui vous mettent assez rapidement, efficacement dans le bain. Qu'est-ce que c'est que l'Orient Express? Comment on décrit un peu ce qui se passe à bord? Le luxe, les escales. C'est bien, c'est synthétique. C'est bien fait. On a une grande table des matières qui est assez bien fichue et assez bien détaillée. Ouais. Après, bon, on a le cœur de la campagne séparé en plusieurs chapitres en fonction des lieux dans lesquels les investigateurs vont être obligés de se retrouver. Sur la fin, on a, alors, chose que je trouve remarquable, on a une série, je crois que c'est une dizaine ou une quinzaine de pages, qui contiennent, peut-être même une vingtaine, qui contiennent des petites fiches, des passagers du train. Et en fait, l'intérêt, c'est que ces petites fiches peuvent être utilisées en tant que PNJ, mais peuvent aussi être réutilisées comme des personnages d'appoint si l'un d'entre
Ouais,
eux venait
carrément.
à se faire broyer sous les rails, enfin sous les roues du train. Donc ça, c'est vraiment vraiment appréciable. Ensuite, on a encore quelques petits encarts sur les célébrités à bord, la manière dont on peut utiliser certains aspects, enfin certaines parties du bouquin, puis des aides de jeu. Petite remarque, je sais pas si vous êtes d'accord. Je trouvais que par rapport aux autres campagnes, il y en avait relativement peu. Je parle là d'aides de jeu exploitables. Pour vous donner un ordre d'idée, on va de la page 218, j'ai le bouquin sous les yeux là, à 228. Donc on a 10 pages d'aides de jeu recto verso. Ça reste conséquent pour un scénario, mais pour une campagne de cette
C'est léger.
dimension, voilà. Il n'y a
Vu le nombre
pas.
de pays qu'on traverse, c'est
Ouais.
léger.
Bon, après, le nombre d'aides de jeu fait pas nécessairement la qualité d'une campagne, hein. Ça, faut pas se leurrer non plus. On a après les horaires de l'Orient Express, dans un format que je trouve quasiment illisible, puis des pages d'aide pour le gardien, une fiche type. Voilà. Moi, je déplore un petit peu, enfin, ça m'emmerdait dans un premier temps, qu'il n'y ait pas d'index dans cette campagne, ce qu'il devrait y avoir dans toutes les campagnes. J'espère qu'ils ont eu la bonne idée d'en insérer un dans la nouvelle version, parce que c'est toujours une manière commode de retrouver très facilement des informations pour les meneurs de jeu. Voilà, je sais pas si tu voulais enchaîner sur la première partie, du coup.
Alors, ouais, attends, je suis en train de regarder s'il y a un index. Les gens ne voient pas pour le moment. Attends, je vois les aides de jeu à la fin des. Ils ont séparé ça donc en trois livres, comme c'est appelé, selon ce que tu disais, les destinations. Mais je vois pas d'index. Ah, attends, c'est bien des aides de jeu. Bon,
Y a
je le
pas
vois pas.
d'index.
Y a pas d'index. Yo, bonne chance les gens. Donc, il y a aussi un truc que t'as omis de mettre, c'est qu'il y a toute une
Les
vignette de
illustrations?
jeu. L'illustration, ça sort un peu du spectre. Mais dans les aides de jeu sur le simulacre et sur notamment le
Oui, j'en
parchemin
ai pas
des
parlé,
morceaux,
effectivement.
qui est assez bien foutu. Et il y a des plans
Les
des
wagons.
wagons en pseudo 3D qui est assez sympa, parce que nous, je me rappelle, le gardien s'en était servi pour nous situer un petit peu
Ouais.
dans les différents wagons, ce qui est assez
Très
utile
sympa.
parce qu'il y a des courses-poursuites et tout ça. Donc les trois bouquins pour juste faire le tour. Donc le volume 3, c'est Sofia, Constantinople, Londres. Le retour, donc le volume 1, c'est Londres, Paris, Lausanne, Milan. Et le volume 2 s'intitule Venise, Constantinople, Trieste, Vinkovitz. Kovsiki et Belgrade. Donc, pour attaquer un peu le bestiau, comment ça se lance?
On n'a pas vu, les amis, on n'a pas vu toutes les aides de jeu aussi. C'est qu'il y a encore des
Oui.
tas d'aides de jeu. Il y avait un super poster qui était vachement immersif sur. Ça devait être Istanbul, c'est ouais,
Ah
Istanbul. Tu avais
oui, t'as
aussi
raison. Oui.
une belle carte des différentes lignes d'Orient Express. Les passeports, on en a parlé ou pas?
Oui, non, 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 pas dans la version 95.
Ah si, si, tu avais des passeports aussi.
Non,
Mais
je
je
crois
dis
qu'il y en avait
qu'on.
un. Il y en avait
Non, mais
un
je
à
dis qu'on n'en a pas
photocopier.
parlé. On n'en a pas parlé.
Ouais, voilà. Donc, ouais, effectivement, passeport uniquement américain cette fois-ci. Et le prix était vachement raisonnable à l'époque. C'était 259 francs ou 250 francs à l'époque. Ce qui fait que je crois que
Oui.
si on rapporte à l'inflation aujourd'hui, ça fait 50 euros. Hein. Donc, on voit le nombre d'aides de jeu qu'il y avait en proportion. Avec de la super qualité parce que les plans en semi-3D étaient en carton.
Ouais.
Donc, c'était
Ouais.
quand même
Ouais.
hyper, hyper résistant.
Et on pouvait les
Moi, je
photocopier pour faire de nouveaux wagons.
Ouais, putain. Et ben, je trouvais que c'était quand même pas cher payé, surtout si on fait le rapport par rapport à ce qu'on a dit aujourd'hui.
Exact.
Ah ouais, non, c'est clair. Donc, c'était vraiment un beau bouquin. Et pour être très honnête, pour lancer un peu le truc, moi, quand je l'ai joué en tant que joueur, en tant qu'investigateur, c'était la première aventure que mon maître maîtrisait. tous jeux de rôle confondus. C'était la première fois qu'il était maître à un jeu de rôle. Donc, à savoir que maintenant, avec la version sans détour, je ne vous cache pas qu'il y a des tonnes d'illustrations qui sont plus belles les unes que les autres avec des photos d'époque, et que mon gardien à l'époque s'en était super bien sorti, Fred, un spécial dédicace. Donc, et imaginez qu'il s'en soit bien sorti à l'époque avec des illustrations assez mochouilles. Donc maintenant, à notre époque, avec tout ce qu'ils ont rajouté, ça, on sera tous d'accord. Là, d'ailleurs, c'est peut-être si on fait un défaut pour ses détracteurs, mais cette campagne est très abordable. C'est quelque chose qui... Elle a une difficulté, beaucoup. Elle a certains points difficiles, mais c'est très abordable pour un gardien. Il ne faut pas être un gardien hyper expérimenté pour forcément se lancer dedans. Ça va demander du travail, mais ça, il n'y a pas besoin d'être un gardien expérimenté pour savoir abattre du travail. Mais ça ne demande pas des trésors d'ingéniosité. Elle est quand même bien décrite. Elle est encore mieux décrite dans la nouvelle version. Je sais pas ce que t'en penses, Desprite, mais c'est...
Je mets un bémol. Alors, c'est-à-dire que oui, c'est très bien décrit, à mon sens trop. Par contre, je retrouve vraiment des moments avec des écueils pour le gardien débutant. C'est-à-dire que si le gardien débutant voit pas quels sont les dangers en termes de jeu, dans certaines scènes, on peut se retrouver dans des situations où la campagne prend fin ou alors dans des trucs terribles quoi. Et y a un autre aspect aussi, c'est que par rapport à la difficulté pour le gardien, il y a des scènes où il va falloir, comment dire, s'il a pas une aptitude à la manipulation ou à la diplomatie ou au mensonge, il y a des fois où les personnages, et là on rentre déjà un peu dans la critique, vont, selon moi, se heurter au mur invisible de la campagne. Vous savez, comme dans les jeux vidéo où aux limites du monde, on se cogne et on peut pas aller plus loin. Soit parce qu'il y a une énorme falaise aujourd'hui quand on jouait à Skyrim, mais à l'époque quand on jouait au vieux jeu de rôle Elder Scrolls, on arrivait vraiment sur une barrière invisible. Et parfois il y a moments, par exemple les personnages veulent rentrer dans une boutique. Je pense notamment à une boutique de taxidermiste, et on nous dit on ne peut pas rentrer parce qu'il y a trop de gens à l'extérieur et les investigateurs risquent de se faire remarquer. Quand on a des joueurs qui ont de la bouteille, savoir les canaliser dans ce type de situation, c'est pas donné à tout le monde. Mais par contre, c'est très bien décrit.
Ouais, c'est vrai, t'as raison. Il y a quand même des difficultés. Enfin, le fait est que moi, la personne qui l'a maîtrisé, elle avait beaucoup joué avant. On avait fait les masques, on avait fait plein de trucs, on avait fait les ombres, et oui. Et on avait fait plein de trucs, et c'est vrai que elle attaquait en préparant le truc pendant plus de 6 mois, en relisant, machin, faisant des fiches et tout. Et puis à l'époque, on n'était pas encore déviants comme les joueurs de maintenant, et c'est tout ça du scénar. Donc, et c'est vrai que c'est assez délicat, parce que là, on va spoiler, hein, accrochez-vous à vos slips en poulpe. Cette campagne est basée sur un mensonge de A à Z. Les joueurs vont avoir l'impression de sauver le monde, enfin de tenter de sauver le monde, alors que non, ils vont complètement travailler du début à la fin pour les forces du mal. Et alors, personnellement, moi, quand j'ai fini la campagne, le sentiment que ça m'a laissé, c'est que cette campagne est absolument démente. Le fait d'avoir fait des dizaines et des dizaines d'heures de jeu, je sais pas si c'est mon gardien qui l'a bien amené, pour qu'à la fin ils nous disent... Au fait, merci les kids d'avoir fait tout ça pour moi. Allez, vous pouvez mourir maintenant. Mais je me rappelle comment on était dégoûtés. Mais sans déconner, heureusement qu'on n'avait pas un simulacre réel, on lui aurait balancé un bras dans la tête et on l'aurait assommé, quoi. Alors je sais pas ce que t'en penses toi de ton point de vue des sprites, mais cette construction-là, si vous le savez pas, ça vous fiche un coup, putain.
Ouais, alors ça, il faut reconnaître que c'est vraiment une grande habileté de la campagne. Je suis d'accord avec toi. C'est un revirement de situation qui est inattendu, qu'on rencontre. Enfin, moi, j'ai jamais rencontré ça dans une campagne. Et c'est très très bon, ça. Très très bon.
Ça, c'est le truc. Alors, comme tu dis, ça implique des délicatesses. C'est-à-dire qu'il faut absolument pas que vos joueurs s'en rendent compte avant, parce que là, ça gâche tout. Mais nous, comme on était un peu con-con, et puis qu'on était vraiment à fond, puis c'est... Ça repose sur le deuxième énorme, énorme avantage et énorme qualité de cette campagne, c'est que c'est une putain de montée dans l'onirisme et dans la dégradation du tissu réel au fur et à mesure des villes que vous allez visiter. Et ce qui fait que pris dans cette mécanique, vous essayez de survivre tant bien que mal, et quand à la fin vous en sortez, vous dites putain, c'est bon, on a ramené le simulacre, putain. Et là, il y a le mec qui vous dit, c'est gentil. Ça ça, je vous remercie. Je te fais un poutou, t'es mort.
C'est vrai que c'est un grand moment, ça.
Alors, ça enlève pas sa linéarité, mais vous arrivez à insuffler ça dans votre campagne. Très honnêtement, ça la sauve. Allez, on va faire du 80-20. 80% de chance que ça la sauve. T'es d'accord, des sprites ou pas?
Disons que ça lui donne un bon souffle de fin. Là où traditionnellement les fins de campagne sont assez convenues, boss de fin, point, ouais. Princesse, ils ont beaucoup d'enfants. Là, c'est vrai qu'on a, on a un revirement qui relance un énorme intérêt à la fin de la campagne. De là à dire que ça sauve la campagne, non, jamais, jamais. Là, t'es en train de vendre du tapis, bon.
Attention, j'ai dit que c'était sous-tendu par la montée en puissance de l'onirisme aussi.
Alors, parce que... cette montée en puissance, c'est vrai, je la constate, on ne fait que monter vers des climax, et la fin est complètement tambour battant, hystérique. C'est vrai que c'est quelque chose qui peut être très agréable. Ce que j'aurais envie de dire, c'est que est-ce qu'on a envie de supporter tout cette pressade pour arriver à la fin? Et après, le défaut de la qualité, c'est que ce rythme tambour battant se fait pour moi au dépens de la liberté du joueur, dans la mesure où c'est une campagne que j'estime être largement dirigiste, dans laquelle les personnages sont des rats dans des cages.
À roulette.
Ah, c'est bien.
Des cages à roulette.
Des cages à roulette modulaires. On y reviendra.
Alors, je laisse cet argument-là parce que j'en ai un pour te péter tes petites dents de devant, mais je le sortirai plus tard quand je serai un peu fatigué et toi aussi. Le fait est que le démarrage n'est pas non plus transcendant. Il y a une espèce de convention, machin, d'un espèce de groupe, là, le groupe Challenger, je sais pas trop quoi. Pouf, pouf, vous arrivez là-bas, vous savez pas trop pourquoi. Enfin, vous êtes connu, machin, on vous a invité. Et puis, pouf, pouf, le mec qui organise la convention, il a joué avec la gazinière, et il a les cheveux complètement grillés. Et il vous dit, prenez l'Orient Express pour sauver le monde. Dit comme ça. Je ne vous cache pas que vous pourrez repartir et couper le podcast, persuadé que Desprite a raison. Mais non. Il a tort, car...
Mon piège se referme.
Car ce premier scénar, je dirais que c'est un peu comme, en moins grand et en moins intéressant, le premier scénar des Montagnes Hallucinées. C'est-à-dire c'est un scénario qui va pas avoir forcément grand rapport avec le reste du bousin. Mais le fait est que, comme je viens de vous le dire tout à l'heure, et là-dessus on était d'accord, le problème c'est que la personne qui vous lance sur la campagne, c'est l'enquilé qui va vous niquer toute la campagne. L'enquilé. Et le fait est que c'est une petite aventure sympathique. Ce qui me fait vous donner un conseil, si je peux vous en donner un, c'est si vous voulez faire jouer, ne dites pas que vous avez fait Terreur sur Orient Express. Faites jouer le premier scénario. Mmh. Vos joueurs vont dire c'est un scénar Cthulhu un peu moyen, bouf bouf. Par contre, ce que vous faites, c'est qu'à la fin, à la fin du scénar, le mec dit bon bah voilà, il va falloir que vous alliez en Europe, parce qu'il va falloir que vous suivez la piste du lac et tout ça, récupérer les pièces. Et là, vous finissez votre scénar. Tout le monde rentre chez soi, c'est fini, voilà, on rejouera peut-être. Et là, ce que vous faites, c'est que vous imprimez des billets de l'Orient Express avec le nom de vos personnages et vous les envoyez par la poste aux gens. Genre, convocation à la prochaine partie.
Oui, bah, tu sais,
c'est une pure idée, ça.
C'est une pure idée et quelque part, je suis content que tu abondes dans mon sens. Il faut bien mentir pour mentir et forcer la main à ces joueurs avec des aides de jeu élégantes pour les attirer dans ce piège à miel qu'est cette campagne.
Je ouais. Savais que les voir clair dans mon jeu, mais c'est vrai, c'est très juste, t'as raison.
Alors, je vais te poser une question, c'est comment est-ce que tu réussis à ne pas les dégoûter du premier scénar, étant donné que tu as à peu près 40 minutes de monologue à tenir par un mec qui est un peu chelou, sur des sujets divers et variés,
Alors, et très suspect. Le gros intérêt, c'est que mon maître savait très très bien falsifier une voix sifflante d'un brûlé au cinquième degré.
Ah, donc, mais je ne te parle pas de ce monologue-là, je te parle de celui de la conférence de 30 minutes qui précède.
Ah oui, non, bah, je crois qu'on l'avait pas fait en entier.
Ah, d'accord.
Oui, parce que tu veux
Alors,
dire.
juste pour replacer, l'ami des joueurs, enfin le pseudo-ami des joueurs, qui est une sorte de professeur présentateur de météo à grosse moustache, avec du vomi dans sa poche, enfin dans sa pochette de veston, parce que c'est les illustrations d'époque, page 33, je vous renvoie. Cette personne tient une conférence. Et bon, cette conférence, disons, c'est quelque chose d'intéressant. On pourrait résumer ça à ses joueurs, avec une petite musique, en lançant quelques phrases évocatrices, parler de certains sujets, dans une espèce de fumée qu'on laisserait en fumant de gros cigares et se regardant d'un air énigmatique. Pas du tout, pas du tout. On a presque deux pages, enfin, ouais, disons une page
ouais,
et demie
à peu près,
A4,
ouais.
Dans laquelle on nous présente tous les sujets que la personne aborde les uns après les autres, avec tous les points. Et donc, comme il s'agit d'une conférence, il est très malvenu d'interrompre la personne au milieu de la conférence et dire oh, « Attends, j'ai pas compris, tu peux me dire ce que c'est qu'une fée ?» Parce que effectivement, on est sur ce genre de sujet. Il parle un peu de tout, des apparitions, des fantômes, de bateaux de pêche bretons, enfin voilà, de plein de choses, des rideaux de perception. Et donc, si on s'en tient à la lettre de la campagne, vous allez devoir infliger un monologue de, bon, disons, 15 à 30 minutes.
Sauf si tu le fais jouer en, tu sais, en une sorte d'invitation pour une soirée débat, en fait. C'est-à-dire que...
Et dans ce cas-là, on passe au format 3h30.
Ouais.
Non, mais là, mais ça m'étonne de toi, Desprite, le roi de l'aide de jeu.
Du narrativisme.
Pourquoi tu n'enregistrerais pas ce monologue et tu le passes en bruit de fond derrière pendant que tu fais jouer tes joueurs et tu interviens avec tes joueurs et les PNJ?
Parce que mes joueurs sont principalement des hommes et n'arrivent pas à se concentrer sur deux stimuli en même temps.
Bon, il est vrai que cette partie-là, c'est pas la plus géniale.
Alors, la partie d'après va la racheter. Il s'agit du monologue de 10 minutes, d'espèce de professeur brûlé. C'est un monologue de 10 minutes. Si vous voulez, voyez les films, les nanars, dans lesquels la personne, avant de mourir, le copain du héros, avant de mourir, il donne la prochaine étape au personnage principal. Il dit, dans le garage, sauve ta sœur, je t'en prie. Et ben là, on a à peu près le même remake, sauf que c'est un texte qui fait une colonne, trois quarts de page A4. Donc à peu près une lecture qui demanderait 5 minutes, dans laquelle la personne est censée agoniser, très gravement brûlée, et dans laquelle il est très très important que les joueurs ne puissent jamais lui poser des questions orientées. Donc en fait, si vous voulez, et à ce moment-là, à la même époque, un autre s'est retrouvé à Trieste. Oui, mais pouvez-vous nous dire qui vous a assassiné? Ta gueule. Je ne sais pas qui est devenu, mais... Et tout ça en lisant, à moins que vous ayez appris ce texte par cœur. Alors, comment, à cette issue, tu arrives à leur donner envie de continuer la campagne? Je t'écoute.
Bah déjà, tu as envie de fuir Londres, parce que c'est là où où s'est passé le drame.
Paquebot, on retourne vers New York, on va chercher les masques de Nyarlathotep.
Dans mon souvenir, ça avait été beaucoup plus court, mais c'est vrai que je me souviens de l'obligation en termes de méta-jeu de ne pas l'interrompre pendant son monologue. En plus, le problème, c'est que moi, c'était la première fois que le maître était maître, donc on voulait pas non plus lui casser ses pattes.
Par respect, disait.
Voilà, mais c'est vrai qu'il... C'est peut-être intéressant de reformuler la chose ou de la couper. Là, je vais regarder dans la version, s'il y a toujours ce monologue-là dans la version de Sans Détour. Je vais regarder, attends, vas-y.
Ce qu'on pourrait faire, c'est proposer des honnêtes aides de jeu sur cette campagne. Moi, je veux bien enregistrer ce texte en faisant le professeur Smith agonisant, mais je ne le ferai pas sérieusement. Si vous voulez faire une campagne Scooby-Doo, je peux vous le faire.
Le honnête aide de jeu.
Honnête, je sais plus comment on dit aide de jeu en anglais.
Bah si. C'est sorti. Props.
Props, honnête props.
Ça serait pas mal ça. Attends, je suis en train de regarder, page 66.
On est bien plus tard là, tu nous épargnes d'horribles saignements d'oreilles et d'œil. Hein.
Information à part de l'intérêt. Ouais non, je n'en trouve pas. C'est ça, si apparemment il y a pas mal de choses. Pastille. Ouais. Non. Par contre, il a une sale tête, le professeur Smith, là.
C'est dans la nouvelle édition, tu veux dire?
Ouais. Ouais. C'est un croisement entre Freud et puis une grosse saucisse. Il a mangé beaucoup de saucisses. Il a un gros ventre. Ah.
Non, c'est vrai, Desp, quand tu lis la fin de l'aide de jeu, je suis désolé, mes amis, pour vous, pour moi, pour tous, je vous en supplie, faites cela pour moi, partez vite, et que Dieu vous protège, c'est vrai que c'est beau. Hein.
Et s'il vous plaît, faites-le dans l'Orient Express et pas en voiture, ou en avion. Alors, attendez, j'ai du très lourd, là, j'ai du très lourd. Sur le pitch de la campagne, alors parce que dans le premier scénario, on apprend que voilà, le méchant simulacre, les pièces sont dispersées à travers l'Europe. Alors, je me suis amusé, très putassement, à regarder quelle était la superficie de l'Europe, puisque toutes ces pièces sont dissimulées à travers l'Europe géographique. Alors, vous apprendrez que l'Europe géographique fait des millions de kilomètres carrés. Soit pour 6 morceaux de simulacres de Sedefkar dispersés à travers toute l'Europe, un morceau tous les 1 696 666 km². Alors, question, comment se fait-il que tous ces morceaux se retrouvent à toutes les étapes, et non pas du tracé, hein, mais toutes les étapes de l'Orient Express? C'est bidon. Bidon.
Alors, forcément, contre ce genre d'argument...
C'est du gène séquentiel. Et encore dans le gène séquentiel, on y croit. Parce que il y a une probabilité. Là, le tracé de l'Orient Express, on peut le voir sur une carte. C'est pas du tout crédible.
Ce qu'oublie de mentionner les sprites, mais je le comprends, parce qu'il est un peu embrumé dans ses propres arguments. Il s'écoute un peu parler. Donc, ce qu'il oublie de dire, c'est que au fur et à mesure de l'aventure, l'intérêt de l'Orient Express, plus qu'un moyen de transport, va être le refuge. Le refuge de toute votre équipe. Ce qui est assez marrant, c'est que c'est beaucoup de choses paradoxales. En réalité, vous l'apprendrez à la fin, mais à bord du train, il y a les pires salopards de la campagne. Me dites pas comment on n'arrive pas à les voir pendant toute une campagne à l'arrière du train. Mais moi, je me souviens plus comment on avait fait, mais on ne les a jamais vus. Mais le train, ce que je me rappelle quand je l'ai joué, c'est que c'était vraiment la bouée de sauvetage. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on quittait une ville, on était content de revenir dans le train. Donc cette espèce de ligne directrice qui peut paraître poussée au début...
Il va dire que c'est le point de sauvegarde avec
son... Oui, c'est ça, c'est la maison. L'Orient Express est au loup caché, la maison, si vous voulez. Oui, c'est vrai, c'est le point de sauvegarde et c'est aussi l'endroit... Alors, si vous voulez, on peut aussi se faire la campagne Terreur sur l'Orient Express en deux scénarios. Ça s'appelle du quick play, je crois. Vous savez, les jeux vidéo qui se terminent en 15 minutes, on peut terminer Morrowind en 19 minutes, un truc comme ça.
Les speed tests, ouais.
Je vous explique. Il y a un moment dans le texte où il est indiqué que si jamais les joueurs ne trouvent pas certaines parties du simulacre, puisque c'est vrai, ces parties sont dissimulées à travers toute l'Europe entière, une toutes les 1 696 000 km, eh bien, c'est très simple, toutes les parties se trouveront dans le cercueil de Fenalik. Et alors, je ne sais plus si son cercueil se trouve dans l'un des wagons du train ou à Constantinople, mais donc voilà, en deux scénarios, en gros, vous avez terminé. Vous faites sauter le wagon qui héberge, qui abrite le cercueil du vampire, vous chopez tous les morceaux du simulacre. Et en troisième partie, vous faites la partie de fin, vous avez terminé.
Alors, voilà.
Tu fais penser au type qui raconte le Seigneur Zano en disant, tu sais, qu'en prenant un aigle, tu pouvais directement aller. Oui.
Mais ouais. C'est le cas. C'est ça qui est terrible.
Alors,
c'est le cas.
Ce qui est intéressant, c'est que, en effet, finalement, je pense que Desprite a raison. Le mieux pour jouer ce scénario-là, c'est faire du stop, prendre des voitures d'époque, faire du camping, et donc parcourir toute l'Europe.
Y aller en avion?
Comme des beatniks en avion, bien sûr, parce que là je vous raconte pas la galère d'être de jeu pour savoir quelles sont les lignes. Et au-delà des déplacements, il faut savoir que ce qu'a raté Desprite dans son explication, c'est qu'un des intérêts de la campagne, c'est le lieu même, c'est l'Orient Express. Je sais que lui, derrière ces dehors de technophile et tout, c'est avant tout un homme, je dirais, proche du peuple. Donc lui, le luxe, ça ne l'intéresse pas. Mais imaginons qu'on vous propose une campagne à jouer à bord du Titanic, à jouer à bord de l'Orient Express, où vous avez un type qui garde chaque wagon, où vous allez bien manger, où tous les soirs quand vous allez faire le briefing, vous allez manger dans de la porcelaine avec de l'argent, face à la campagne de Desperate, où vous avez donc le guide du routard de l'époque, où vous allez vous retrouver dans des pays où vous comprenez absolument pas la langue, à essayer de choper un avion qui va à trifouiller les oies, mais vous savez absolument pas, parce que si vous ne savez pas du tout par où commencer, la campagne va pas durer 50 heures, mais 50 ans.
Oui, parce que
Donc oui,
l'Europe, c'est grand.
forcément, quand vous allez avancer sur Terreur sur l'Orient Express, vous allez vous douter à chaque fois que le train s'arrête, il y a quelque chose. Alors,
Oh, mais tiens, c'est étrange!
soit dit en passant, soit très honnête, vu que tu l'as relu aussi, mais je ne crois pas qu'il y ait un morceau du simulacre à chaque arrêt, si?
Alors, il me semble que si.
Ah merde.
Alors, je vais le
Même
refaire.
Chez Baba Yaga?
Non.
Alors, là, je me souviens pas, chez Baba Yaga. Je peux te dire qu'il y en a un. Il y en a un
À
à
Paris, à
Paris,
passer à
il y en a
Poissy.
un à Lausanne, il y en a un à Milan. Il me semble qu'il y en a un en Italie.
À Venise.
À
Et
Venise,
puis
oui.
c'est vrai, Desprez, t'as raison.
À Trieste dans les rêves.
Est-ce
Ah
que
non,
ça
pardon, c'est
serait
pas à Trieste dans les rêves.
Non, est-ce que ça serait pas plus sympa plutôt d'aller voir Venise, d'aller voir Constantinople, d'aller voir Lausanne, ou d'aller voir quelle autre ville on traverse?
Plumeuset
Milan.
les oies, je crois.
Milan. Est-ce que ça serait pas plus intéressant d'aller à Montcuq sur Yvette, puis après d'aller à Trifouille-sur-Gruyère en Suisse, puis de passer par Garmigiano de Santa Maria en Italie, où il y a juste une église et trois pauvres pécrins qui parlent pas anglais. Donc oui, cette campagne repose sur le fait que vous allez faire un voyage fastueux vers des destinations classe. Donc
Ouais, mais
oui, en effet, il y a un côté très très droite, très très j'irais très entrepreneur qui a fait de l'argent dans une mais
bourgeois
pas
mondain, tu cherches.
voilà,
C'est le mot que tu
exactement.
cherches, bourgeois mondain.
Ils vont peut-être faire une version de gauche pour 10 euros où tu feras tout à pied où
Oh, ta gueule, sale pauvre. Garde ton édition pour communiste.
je suis d'accord. Là où je
Tu
suis d'accord
mangeras
avec
du
des
pain sec.
sprites, là où je suis d'accord avec des sprites, c'est quand vous quittez Londres, vous savez où vous allez aller. Ça, c'est clair. Donc,
Ouais, mais
soit
vous savez pas
vous.
comment ça va se finir.
Non. Alors
Oui, mais vous savez
déjà.
que toute la campagne, vous allez faire un truc redondant et convenu avec des
Faux.
étapes prédéfinies, et vous savez que dans chaque étape, vous allez trouver un morceau du truc.
Ah, mais ça, c'est parce que t'as pas joué, putain, mais le scénar à
Ouais.
Poissy, quand
Flippant de chez Flippant.
nous, on s'est fait passer pour une équipe de tournage qui devait faire un film d'horreur dans les locaux d'un espèce d'hôpital, je crois qu'on visite, un hôpital
La
psychiatrique.
Charenton.
Oui.
Charenton, on a fait des scénars, mais dément. Quand tu es à Milan et que tu visites la Scala de
Ah
Milan
oui,
et que
attends.
tu es derrière les décors et tout, et que tu es au milieu des gens qui sont déguisés en Romains, machin et tout ça, derrière des trucs un peu monstrueux, quand tu vas à Venise. En haut la place Saint-Marc là, au niveau de l'horloge, là, je sais plus trop
Ouais,
comment
Zagreb,
enfin.
pareil. Non mais
Alors,
t'as raison.
je vais te dire un truc, c'est que en fait, déjà, je parlais juste de la structure, c'est-à-dire que
C'est vrai.
on sait que le train va avancer et à chaque escale, il va y avoir une aventure. Rapidement, on va se rendre compte aussi que à chaque escale, on va rencontrer le surnaturel. Donc, dans toutes les parties d'Europe et dans toutes les grandes villes de l'Europe, le surnaturel attend les joueurs, ce qui est déjà pour moi assez improbable. Après, je dénie pas l'originalité des situations qui sont proposées. Ce qui me pose un problème, et on va y revenir, j'imagine, c'est la manière dont c'est scripté. C'est-à-dire que tout ce que vous avez cité, c'est des moments où il peut se passer des trucs géniaux. Le problème, c'est que la manière dont on y arrive, enfin, si vous voulez, ce sont des petites pièces d'un labyrinthe de rats. Et même si les pièces sont jolies, on est quand même dans un labyrinthe de rats.
Alors non, moi je te dirais que c'est plutôt une expérience. Des expériences sur les animaux. Parce
C'est du
qu'un
marketing, ça.
labyrinthe de rats, s'il t'ouvre pas la porte, il sort pas. C'est toi qui ouvres la porte. Alors que là, dans Terreur sur l'Orient Express, tu as le choix.
Ah bon, lequel?
Soit tu prends la porte pour te faire bouffer, soit tu prends la porte pour sortir. Mais la porte pour sortir, là où je te trouve un peu raccourci, c'est que t'as pas un seul choix pour te sortir du scénar. Nous, il y a des scénars où on s'en est sorti la queue entre les jambes en courant. Par contre, il y a des scénars où on s'est gavé. Ok, pour passer d'un scénar à l'autre, bah, tu remontes dans l'Orient Express, mais au sein du scénar, Je suis désolé, mais au contraire, moi je me rappelle qu'on avait été un peu dépassé par la liberté parce que t'arrives, t'es dans la gare, ok, maintenant démerdez-vous.
Ah bah, alors, il y a plein de moments où t'arrives, t'es dans la gare, et là il y a un mec qui te hèle et qui se barre en te disant j'ai les informations pour vous, et tu es obligé de le suivre. En tout cas, c'est la manière dont la campagne a été écrite. Et si tu veux, je vais te reprendre ce passage et je vais te le lire. Je vais juste le chercher pour l'instant.
Je veux, parce que j'ai un peu du mal à y croire, personnellement.
D'accord. Il est en train de taper.
Page 106.
Je prends la page.
Ok,
moi aussi.
Page 106. Alors, un visiteur tardif. Balade dans le froid. Attendez, juste, je vais retrouver le moment.
Quel salaud.
Voilà. Alors, ça, c'était pas sur le quai d'une gare.
Ah, déjà, tu vois.
Voilà, déjà.
Alors en fait, il y a un fantôme qui arrive. Je crois que c'est dans l'hôtel des joueurs. Un fantôme qui arrive.
Déjà. Attends, des sprites déjà.
C'est Trieste.
Tu as déjà des sprites. Tu as critiqué le début de la campagne où le mec te fait un laïus pendant 1 heure et demie sur les spectres, les apparitions et le surnaturel. Et à ce moment-là, vu ce que tu viens de dire, c'est à ce moment-là que tu fais le lien entre tout ce qui va se passer, tout ce côté surnaturel. Finalement, dans le premier scénar, on t'a mis sur la piste de ce qui allait se passer dans tous les autres scénarios. Au fur et à mesure, ça devient de plus en plus important.
C'est convenu, c'est parachuté. Où est l'horreur métaphysique dans tout ça? C'est l'équivalent de Hans, le vieux sorcier, qui au début de l'auberge, à un moment fait un clin d'œil après avoir donné la mission aux joueurs en leur disant
«
Faites attention au dragon !»
Le truc des sprites, c'est que tu t'es jamais retrouvé, et moi je l'ai fait, je sais plus dans quel scénario c'est, mais il y a un scénario où il y a un procès. Lequel c'est, je crois que c'est en Italie.
Oui.
Et on, dans le scénario.
Les joueurs sont obligés de faire ce procès. Ils peuvent pas ne pas le faire.
Et dans la campagne, on t'oblige à faire le réquisitoire pour un procès. C'est génial.
Oui, la situation de jeu est fantastique. Le problème, c'est que c'est une salle à rats. Le rat est obligé de passer dans cette salle avant d'arriver à la suite. Et même si à la fin, il peut y avoir deux dénouements, la personne est obligée d'arriver dans ce procès, elle est obligée d'y prendre part, et à la fin, il se passe une ou l'autre option.
Mais
elle réussit à défendre efficacement ou pas.
Si t'es concret, c'est comme si tu donnais une mémoire de 3 jours à un poisson rouge. Il se tirait une balle dans son bocal parce qu'il se dirait, mais putain, je suis déjà passé par là. Putain, mais je tourne en rond. Bah oui. Le problème, c'est que le poisson rouge, il a pas de mémoire. Donc, si tu prends ce précepte-là pour le scénario en te disant à chaque fois je vais découvrir quelque chose et je vais me laisser porter et puis je vais redécouvrir, et si tu restes pas focusé sur le fait qu'il va falloir remonter dans ce putain de train et aller à la gare suivante, je suis d'accord, ça passe pas. Si tu n'arrives pas à t'extraire de ce truc-là, ça passe pas. Et on pourra pas faire autrement parce que. On peut pas, autant les masques, on pouvait le triturer, autant le Grand Esprit, il peut pas faire marche avant, marche arrière.
Alors, justement, moi, ma question, c'est pourquoi, enfin, si vous voulez, c'est un problème de cohérence. C'est que si on veut faire une aventure à bord de l'Orient Express, pour moi, il me semblerait normal que les événements principaux se passent dans l'Orient Express, avec éventuellement des scénarios de garage à l'extérieur de l'Orient Express. Sinon, il y a un problème de cohérence. C'est-à-dire que déjà, alors, il y a une autre chose que je souhaitais aborder avec vous, parce que ça, j'ai jamais eu de réponse. C'est-à-dire que parfois, les joueurs sortent de l'Orient Express et vont bagnauder dans les villes pendant 1, 2, 3, 4 jours, et ensuite, quand ils reviennent, l'Orient Express est toujours là.
C'est marqué dans la campagne.
Où sont décrits les haltes et comment ça se passe Qu'est-ce qui est prévu? Enfin, est-ce que c'est rationnel? Est-ce que ça se passe vraiment comme ça?
Voilà. J'attendais cet argument-là. Est-ce que c'est rationnel? Voire est-ce que c'est historiquement vrai.
Non mais tu vois, quand les joueurs remontent dans l'Orient Express, le chef de gare arrive et dans les 5 minutes qui suivent, l'Orient Express démarre, tu vois. Enfin c'est pas crédible parce qu'on a l'impression que l'Orient Express attend les joueurs comme un train fantôme.
Eh oui, mais c'est ça. À bord du train, il y a un mec qui est le mal incarné. C'est une puissance maléfique absolument titanesque. En réalité, on le voit pas, mais son wagon, c'est une espèce de forteresse absolument gothique énorme qu'on ne voit pas. Donc oui, forcément, au fur et à mesure de l'avancée, il déforme la réalité. Tu sombres dans une réalité complètement digitée.
C'est ce que j'appelle une ficelle à la Lost. C'est une manière, on fait venir du surnaturel quand on n'a pas d'explication logique. Ça marche un temps, mais au bout d'un moment, tu dis bon, il y a du surnaturel partout. Voilà, je suis accompagné dans le monde des rêves ou quoi.
Enfin, c'est dommage. Enfin, dans ces cas-là, Tu dois être déçu quand Indiana Jones il se fait pas écraser entre le char et la montagne.
Ah non, j'ai pas dit ça. Je veux dire, des petites incohérences ou des petites des petits arrangements en clarité, c'est quelque chose. Mais faire basculer toute une campagne dans une espèce d'onirisme, non pas calculé, mais plutôt hérité des incohérences précédentes, moi ça me semble léger. Alors peut-être qu'on dira oui, c'était merveilleux, ils ont pensé à tout ça. Je suis pas certain. Parce qu'en fait, il y avait, à mon avis, ils voulaient tellement diriger le jeu des joueurs et des investigateurs que parfois ils ont dû prendre l'onirisme comme prétexte. Qu'on fait les scènes dans le monde des rêves, dans lesquelles les joueurs sont obligés d'y aller, quasiment. Au début, c'est pas trop le cas. Au début, ils peuvent y aller, et je trouvais que c'est intéressant avec la drogue. Mais la deuxième fois, avec la bouteille de vin dans les, enfin, à laquelle les personnages sont censés boire, c'est quand même lamentable, quoi. Ils se font livrer une bouteille de vin par un mec ultra chelou qu'ils ont jamais vu dans l'Orient Express qui est à côté en train de se frotter les mains avec un air de vampire. Et les gars, oui, je vais peut-être boire, pas boire. Et là, il y a un mec qui boit en disant, oh, c'est le meilleur vin que je n'ai jamais bu. Oh, je vais mourir tellement qu'il est bon. Vous devriez en boire, les amis, tellement qu'il est bon. Mmh, le bon, bon, bon. Mmh. Ben, en fait, bien sûr, le vin est drogué. Mais moi, mes joueurs, tu leur fais ça, mais ils sortent les Thompson, ils te disent, bois la bouteille, espèce de connard. Et ensuite, ils attendent pendant 2 heures que le mec.
Alors, tu n'as pas le droit d'avoir des armes à bord de l'Orient Express.
Deuxième point emmerdant. Enfin, nouveau point emmerdant.
Non,
pourtant, tous les ennemis, eux, y ont le droit.
Ce qui est assez étrange, c'est que toi qui semble être un esthète de du roleplay et de la façon de jouer les jeux de rôle, tu jouerais franchement le vin comme ça avec un mec avec un air de vampire et l'autre qui fait oh ma biche, c'est bon ça. Non, tu jouerais pas ça comme ça. Tu serais
mais c'est
subtil.
Comme ça que c'est présenté. Mais ouais, mais est-ce qu'on critique la campagne ou la manière dont la font jouer les gens?
Non, je suis sûr que
tu pourrais faire une excellente campagne de cette campagne. Mais est-ce que objectivement cette campagne par elle-même et par le matériel qu'elle propose, est-ce qu'elle a le potentiel d'une bonne campagne? C'est pas comment dire, tout le monde peut faire d'un scénario porte-monstre trésor un truc inoubliable, fantastique, hyper marquant.
Ouais, je suis d'accord. C'est-à-dire que c'est bien sympa de proposer une campagne, mais je veux dire, c'est bête de se réfugier derrière l'excuse du narrativisme dès que quelque chose semble en défaut par rapport au reste, quoi.
Mais c'est absolument pas
ça. Ouais, mais c'est pas du tout ça, ouais. Je suis pas d'accord.
Enfin, là, à mon avis, vous avez raté, et là, je dis ça très honnêtement sans blaguer, vous avez raté un truc, c'est que si vous jouez cette campagne, la montée en puissance de l'onirisme n'est pas du tout feinte. C'est pas un truc où on vous oblige. C'est vraiment un truc où moi je me rappelle au fur et à mesure on se disait putain mais c'est quand le prochain arrêt? Oh merde putain mais on flippait
ouais.
Parce que
moi je
enfin tu sais... c'est la description de la ville n'est plus aussi précise. Les distances sont à moitié raccourcies, vous savez même pas par moment comment vous vous rendez dans un endroit, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui vient vous chercher, enfin...
Des ascenseurs à rats.
Vous perdez pied.
C'est des ascenseurs à rats.
C'est sûr que si vous avez raté le paragraphe, par exemple dans Donjons Dragons, où Gary Gygax vous dit « Ce qu'on vous donne là, c'est une base, mais vous en faites ce que vous voulez », si vous êtes obligé de lire... Et vous dites pour 109 euros, je veux qu'on me dise exactement comment bien la jouer. Non, on ne va pas vous dire comment bien la jouer.
C'est bon, je pense aussi, moi je les prends vraiment, d'ailleurs c'est comme ça nous on les a joués, parce que déjà, nous on les a joués tous les jours pendant un mois, non-stop, donc on avait imposé un rythme un peu à montagne russe, ouais, j'étais jeune à l'époque. Mais c'est. Les montagnes, du moins pas les montagnes, mais l'Orient Express, c'est vraiment des montagnes russes, c'est-à-dire tu prends effectivement les wagons. Et un petit peu comme lorsque tu regardes soit Indiana Jones et le Temple Maudit, soit lorsque tu montes dans les montagnes russes, tu passes bien sûr par tes passages obligés, c'est par convention, il faut l'accepter. Mais les différents morceaux qu'on va quand même te donner, ils sont assez crunchy, quoi. Hein, donc,
ouais,
et tu vas y passer des bons moments grâce.
C'est un peu comme Space Mountain. Ouais. Tu sais que tu vas t'asseoir, tu sais que tu vas te faire secouer, bah, quand tu t'assois, tu te fais quand même secouer.
Alors là, on tombe sur un point d'accord. Là, je suis tout à fait d'accord avec Fox. Si on arrive à digérer la structure et le chemin de rail entre les différents moments, alors oui, là, on peut vraiment passer de bons moments. Et là, je plus sois avec ce que vous dites. Il y a beaucoup de scénarios qui sont très originaux. Enfin, beaucoup de. Moi, je les appelle des salles à rats, qui sont très originaux, dans lesquels il y a des enjeux exotiques, des trucs qui sont rarement vus dans d'autres scénars. Il faut le concéder. C'est pour moi le point vraiment positif de cette campagne. Alors, c'est que les situations de jeu, indépendamment des liaisons entre ces situations de jeu, sont de qualité.
Si, Desprez, si on s'extrait de la campagne comme elle est présentée, est-ce que toi, tu penses que potentiellement, on peut créer une campagne sur l'Orient Express, très axée sur le fait qu'on va passer par telle ville, telle ville, telle ville, sans se reposer sur la campagne existante. Est-ce que tu penses que ça serait faisable d'avoir une campagne qui te plaise, qui soit assez ouverte, mais qui ait comme toile de fond et comme ligne directrice un train? C'est possible
Alors,
ou pas?
Comme je te disais, ouais, je pense, mais plutôt à la Agatha Christie, dans lequel les enjeux se passent à l'intérieur du train. Et on peut, ça serait forcément moins long, ça serait pas une campagne, ou peut-être une mini campagne, tu sais, une dizaine de scénarios.
D'accord.
Je pense que là, il y a vraiment un intérêt. Ouais.
Mais ce que je veux dire, c'est que avec une structure par chapitre comme ça, où on va découvrir les villes après les villes, c'est pas possible. Enfin, pour toi, on ne peut pas sortir du côté linéaire. On est d'accord.
Alors il faudrait revoir si tu veux l'objectif de base. Il faudrait pas retrouver des objets disséminés dans toute l'Europe. Il faudrait plutôt faire un truc du type vous essayez de fuir quelqu'un. Enfin c'est une proposition, il y en a d'autres. Hein. Vous essayez de fuir, vous êtes pourchassé et vous avez un objet qu'il faut à tout prix mettre en sécurité. Vous prenez l'Orient Express et vous faites tout pour vous cacher que ne pas être détecté. Et à chaque arrêt vous allez retenir votre souffle parce qu'il y a peut-être des gens qui vont monter, des gens qui vont descendre, des échanges d'informations. Et après, des gens vont essayer de vous nuire et vous luttez contre le sommeil au fur et à mesure parce que vous pouvez pas vous endormir dans le train. Tu vois, là, il y a vraiment
l'intérêt. Ouais, mais là,
et puis essayer de contacter des alliés en sortant dans les villes, en leur envoyant des télégrammes. Tu sais, tu vois en fait ce passage dans Dracula de Francis Ford Coppola où les héros remontent la piste de Dracula vers son château. Et ben, au fur et à mesure, tu vois, il y a une espèce de jeu entre la personne qui traque et leur chemin. Et je trouve que c'est très 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 intéressant. Et on aurait pu faire un truc comme ça en faisant un super final à la fin de l'Orient Express.
Ça, enfin, pour moi, des sprites, le problème, et attention, hein, soit dit en passant, tu viens d'inventer un truc et tu viens d'y penser, donc j'avoue la qualité de ton improvisation. Mais le problème, c'est que voilà, si tu fais ça, le truc comme ça, moi, la première chose que je vais essayer de faire, c'est faire croire au mec que je suis resté dans l'Orient Express et me barrer.
Bah oui, dans ce cas-là, le mec va monter dans l'Orient Express. Mais si tu veux, il y a peut-être.
Oui, mais tu perds le fil. Là, on se dit.
Mais alors, tu peux peut-être trouver un pitch qui fait que, par exemple, imagine-toi que ce soit une personne importante dans l'Orient Express qu'il faut que tu protèges, et sans qu'elle s'en rende compte. Et dans ce cas-là, tu es attaché à l'Orient Express. C'est un pitch que je te sors au débeauté, mais je pense qu'on peut en trouver 10 autres. Par exemple, dans un des wagons, il y a un objet qui est incrusté quelque part, on ne sait pas où. Et pendant tout le temps, les gens vont farfouiller partout dans l'Orient Express, qui est en train luxe, en démontant des boiseries et tout, mais en essayant d'être discret. Et en même temps, les gens qui les pourchassent savent où se trouve cet objet. Donc tu vois, il pourrait y avoir un jeu fantastique qui soit centré sur le train et avec des petits scénarios à l'extérieur aux différentes haltes. Moi, je trouve que c'est dommage, cette campagne, je l'aurais saucissonné en recueil de scénarios et j'en aurais fait plein de scénarios géniaux. Le lion, pour moi, c'est trop, c'est too much.
Ouais. Ah. Très honnêtement, c'est intéressant ton idée, mais c'est vrai que toi tu prends l'Orient Express comme étant le sujet même de la campagne, alors que là,
c'est son titre.
Soyons honnêtes, c'est le moyen de transport, c'est le guide.
Et bah pourquoi c'est une campagne qui s'appelle pas le simulacre de Sedefkar?
C'était moins porteur.
Elle pourrait s'appeler aussi le méchant se cache dans la troisième porte à gauche en sortant de l'ascenseur.
Fox a donné un argument qui se tient aussi. C'est moins
vendeur,
porteur.
C'était,
bah voilà.
C'était vendeur.
Mais qu'est-ce qu'on peut penser d'un titre, enfin dis-moi d'une architecture qui en fait peine à faire un liant crédible à des scénarios géniaux et qui utilise des traits grossiers pour faire un. Faire un enveloppement marketing, quoi. Moi, ça me gêne. Je le vois avec les aides de jeu, je vois avec le titre. Enfin, il y a plein de choses qui sont racoleurs. Et si on veut être cohérent, je pense que faut s'attacher au fond, à l'intrigue et au lien entre les scénarios en plus des scénarios. C'est pas un accessoire. C'est pas comme du GN séquentiel où entre les différentes étapes qui sont intéressantes, ben on fait que marcher comme des cons et discuter bière et pizza.
C'est étonnant comme façon. Enfin. C'est dommage que tu l'aies pas joué. Je pense qu'avec un bon maître, t'aurais pas du tout la même vision du truc,
Ouais,
mais
mais le
c'est.
maître peine. Cette campagne est injuste parce qu'elle va dire au MJ finalement, ouais, on s'est pas trop occupé des transitions, faites-en quelque chose de potable, nous on vous propose le minimum syndical.
Non, non, non,
C'est pas bien.
ce que va dire la campagne derrière ces travers, parce que toute personne qui la lit comprend la linéarité. Ce qu'il y a dit derrière, c'est choisissez bien vos joueurs. Si vos joueurs n'aiment pas les scénarios linéaires, ne refaites pas Terreur sur Orient Express.
La campagne ne le dit pas.
Bah, non, mais quand tu la lis,
Oui, mais
t'es
moi
censé le comprendre.
j'ai dû passer 3 ou 4 semaines pour me rendre compte que ça ne me convenait pas ni à mes joueurs. Il ferait mieux de le dire d'introduction, tu vois,
Moi,
même
j'aurais.
sur le site de Sans Détour, il n'y a aucun moment où ils disent que c'est une campagne linéaire. C'est marqué nulle part. Bien sûr, c'est pas vendeur.
Bah, le truc, c'est que c'est une campagne des années 90 qui s'appelle Terreur sur Orient Express. Enfin, dans les années 90, on n'était pas hyper narrativiste et improvisationniste, hein.
Bah alors pourquoi cette campagne ressort aujourd'hui?
Ah,
Ben, ça
parce qu'il y a des gens qui vont
je
l'acheter.
pense.
Voilà,
Voilà,
parce qu'à mon
reste.
avis, ils jouent sur la nostalgie pour.
Bah voilà, mais on vient toujours à des préoccupations mercantiles.
Il y a
Cette
pas que ça.
campagne ne ressort pas parce que c'est un monument qu'on a envie de refaire jouer et
Si, si,
accessoirement
si,
faire de la
si, si,
thune.
si, si.
Cette campagne ressort pour je ne sais pas quelle raison, mais visiblement l'armada de goodies et de soins esthétiques dont elle s'entoure,
Alors,
pour moi c'est un peu suspect, tu vois.
sur le fond, est-ce que pour toi, Desprez, tu préfères Terreur aux montagnes hallucinées ou pas? Ou
Oui,
inversement?
non, je préfère les montagnes hallucinées parce que la lecture des montagnes hallucinées est incroyable et c'était vraiment une super expérience et en tant que rôliste mais aussi lecteur, j'ai pris mon pied à lire les montagnes hallucinées.
C'est assez marrant que tu aies dit en tant que lecteur quand même.
Bien sûr, mais comme je le disais en
Parce
intro, je pense
que.
qu'on est tous un peu lecteurs, collectionneurs et rôlistes à différents degrés.
Alors
Je suis
là,
plus rôliste que les autres,
je suis
que les
désolé
autres. Oui,
de
vas-y.
te dire, mais enfin, moi, de mon point de vue, très très souvent, quand j'ai lu des scénars, je les trouve merdiques. Une fois que je les joue, le fait que. Le problème, c'est que pour moi, le jeu de rôle, c'est pas une lecture. Moi, quand je lis un scénario, je m'imagine des trucs et tout. Mais quand je le lis juste, c'est vide, c'est
Bah
mou,
alors, je te pose une question.
ça va du chapitre 2 au chapitre 3 au chapitre 4 au chapitre 5. Et par contre, à chaque fois, ça m'a fait la même chose avec les ombres, avec tous les scénars. Quand tu mets des putains de joueurs qui vont sortir de n'importe où des idées farfelues, eh ben le support qu'on t'a donné, c'est là où tu dis, ah mais merde, putain, c'est un super support, parce que finalement, on m'a donné assez de choses, peut-être pas assez à certains endroits, je suis assez d'accord avec toi, mais on m'a donné un support top, et mes joueurs, ils s'éclatent dedans.
S'éclate dedans.
Ce que je veux dire, c'est
Ouais.
que moi, je n'ai jamais mis. Alors, bon, c'est différents styles de rôliste, mais moi, j'ai jamais pris mon pied à lire une campagne ex nihilo, juste comme une
Bah,
lecture.
mon projet n'était pas de juste lire les Montagnes Hallucinées quand je l'ai acheté. J'avais envie de le faire jouer, mais voyant rapidement que c'était aussi un gros labyrinthe à rats avec des moments fantastiques et que ça ne me convenait pas ni à mes joueurs, je me suis simplement résolu à prendre de cette campagne le meilleur qu'elle pouvait me donner, c'est-à-dire un plaisir de lecture. Mais je crois que
Ouais,
Fox
mais
voulait intervenir depuis un
ouais, je
moment.
voudrais intervenir, ouais, parce que si on fait le comparatif quand même entre ces deux campagnes qui sont des exemples de linéarité, bon, il faut pas dire ça.
Salaud.
Si, mais c'est pas obligatoirement un défaut hein, d'ailleurs. Hein, moi, si j'avais à conseiller à un débutant, et c'est pour ça que je pense que quand même elle est intéressante, l'Orient Express est beaucoup moins intimidante que les Montagnes Hallucinées. Alors pour plusieurs raisons, c'est d'une part elle est plus courte à mon avis. Elle offre plus de variété sur les scénarios hein, en intermédiaire. Je pense que les mises en situation sont beaucoup plus simples.
Oui, c'est clair.
Il y a
Oui,
des
c'est clair.
bons moments de flip et je dirais que chaque scénario a son climax. Contrairement aux Montagnes Hallucinées qui montent un peu crescendo et tu vas avoir quand même des scénarios où tu vas te demander ce qui ça apporte à l'intrigue. Alors, même si ça apporte des choses, mais en tout cas, tu n'auras pas un grand moment à chaque fois, je pense. Hein. Je l'ai pas fait jouer, je l'ai lu, pareil, donc je me réserve là-dessus. Alors que moi, le souvenir que j'ai de cette campagne, c'est que chaque scénario a eu un grand moment. Hein. Donc, même si les fils qui les relient sont énormes, ça c'est vrai, mais pour quelqu'un qui débuterait, qui voudrait se lancer dans une campagne, et qui voudrait être suffisamment rassuré pour être bien encadré avec les joueurs qui vont bien, je pense qu'il n'aura pas de mauvaise surprise.
Mais alors, Fox, je te pose une question. Est-ce que ce gars-là, qui débute et qui veut un truc rassurant, est-ce que tu lui donnerais des recommandations par rapport à l'équipe de joueurs qu'il va, réunir?
Des joueurs débutants comme lui.
Ou bien est-ce qu'il peut aussi inclure, des vieux routards?
Moi, c'est sûr.
Des vieux routards comme moi, oui. Des vieux routards comme toi, non. Des sprites.
Ah, je vais lui péter la main.
C'est, c'est ce que j'allais dire, tu vois.
Je pense qu'il y a une convention de jeu. Plastique le train au troisième scénar. Hein.
Je pense qu'il y a une convention de jeu et je pense qu'effectivement, tu connais tes joueurs aussi. Hein, ou alors les gens avec qui tu as travaillé. Effectivement, si tu as des gens comme toi qui supporteront pas du tout cette linéarité, ça sera insupportable. Mais les gens qui vont accepter justement de prendre le train et de prendre les wagons, bon, ils passeront des super bons moments. Hein.
Mais juste maintenant pour préciser sur cette linéarité, c'est, si tu veux, c'est pas tant la linéarité que je reproche, parce que j'ai passé d'excellentissimes moments avec des scénarios ou des petites campagnes linéaires. Je pense par exemple sur les scénarios No Man's Land, qui est extrêmement linéaire, la version Chaosium, ou bien en campagne dans un autre genre, la campagne impériale de Warhammer. Mais pour venir là, ce qui me gêne principalement, c'est pas la linéarité, c'est les moments où on te force la main. Et il y en a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup.
C'est vrai.
Il y en a vraiment beaucoup où on te dit, vous pouvez, enfin, les joueurs ne pourront pas faire ça, ou quand les joueurs vont parler de ça, ou les joueurs vont suivre le gars. Et j'ai pris vraiment beaucoup de notes. C'est très dérangeant. Moi, ça me gêne en tant que joueur qu'on me dise bon, quand vous sortez avec le mec, alors il se passe ça. Non, mais attends, j'ai pas envie. Le duc de machin qui te fait le tour de la ville. Si un de mes joueurs le sent pas et a pas envie de le suivre, qu'est-ce qui se passe? Bah, arrêtez, les joueurs ne vont jamais faire le tour de la ville et ils vont louper tous les lieux importants. Quoi.
En t'écoutant, Desrain, ce que j'ai l'impression de comprendre, c'est que comme c'est censé être une campagne monumentale, toi, t'as l'impression que t'as envie, enfin, ce que tu attends, c'est qu'on te donne une matière pour faire jouer tes joueurs, que tu aies le moins à retravailler possible. Et j'ai l'impression que c'est ce que t'as l'air de dire, parce que...
Non, moi ce qui me gêne, c'est ce que je disais, c'est que je n'aime pas forcer la main. Non, c'est même pas le script qui me gêne, c'est pas les conférences de 2 km de long. Ce qui me gêne, c'est que je sois obligé, qu'on me force la main pour faire certaines choses quand je suis joueur. Et moi, en tant que MJ, ça me gêne vis-à-vis de mes joueurs, de dire, bon, à un moment, vous sortez du train parce que vous en pouvez plus... Non, le libre arbitre des joueurs pour leur personnage est quelque chose de fondamental. Dans une campagne, sans passer une ou deux fois, je veux bien, mais sans passer systématiquement ou obliger les joueurs à avoir certains sentiments, ça me gêne. Quand la nana chante son morceau d'opéra et qu'on me dit les joueurs sont profondément marqués par cette chanson et la retiendront pendant des années au fond de leur cœur avec une émotion, je sais pas quoi, ça me gêne.
Ce que t'as pas compris, c'est qu'on te dit pas ce que les joueurs ressentent. On te dit que
c'est écrit noir sur blanc. C'est écrit.
Oui, mais non, mais enfin, faut pas non plus lire tout au pied de la lettre, sinon tu vas galérer dans les campagnes. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qu'on
mais alors,
te dit.
Est-ce qu'on juge la campagne ou est-ce qu'on juge la manière?
Ah ben, on juge. Le problème, c'est ça, c'est que toi, tu prends les campagnes comme un livre. Moi, je prends les campagnes comme une sorte de script de comment je dois l'interpréter. Et c'est vrai que fondamentalement, je pense que t'as dû être excessivement déçu pendant toutes les années 80 du fait de porter des pantalons velours côtelés et puis du sky. À chaque fois, le scénario, pour moi, c'est quand on dit les joueurs vont ressentir une énorme émotion, eh ben, galère ta race, mais essaie de décrire la chose, de décrire l'ambiance, de mettre un fond sonore. Toi, t'es le roi des aides de jeu, merde, pour que vraiment ils aient une émotion. Un peu comme la cantatrice dans le cinquième élément.
Alors, je comprends ce que tu me dis, et pour moi, c'est la bonne méthode. Mais si tu veux, on est réunis ce soir pour parler d'une campagne, et pas pour parler des potentialités d'une campagne. Sinon on ne sait pas de quoi on parle. Parce que si tu me parles de la campagne que tu as jouée, dont tu as d'excellents souvenirs avec Fox, je pense... c'est une chose, mais moi je peux pas t'en parler. Par contre, si tu me dis parlons du bouquin qui a été publié en 1994, je peux émettre une critique sur la manière dont les choses sont présentées et la manière dont les choses sont présentées écrites dans ce livre me gêne profondément parce que je me dis que justement, précisément avec un joueur débutant qui n'a jamais fait de campagne, quand il lit ça, il va se dire ok, là je vais dire à mes joueurs, ils font ça. Tu vois, il y a trop de vent dans la rue, vous pouvez pas marcher dans la rue, c'est pas possible. Voilà.
Alors que toi, tu voudrais dire quoi? Il y a du vent dans la rue.
Non, moi j'aimerais
ce que
pas.
Vous voulez.
Je n'aimerais pas qu'il y ait marqué dans le livre le vent dans cette rue empêche les joueurs de la remonter. Point. Donc on ne sait pas ce qu'il y a au bout. Non, j'aimerais qu'on me dise que le vent est très contraignant et complique énormément la tâche des joueurs. Si maintenant ils arrivent à se maintenir contre le vent, et ben il se passe ça. Je n'ai pas envie que mes joueurs soient des rats et se heurtent à des murs infranchissables.
Maintenant,
si on est dans une campagne, si mes joueurs ont envie de sortir une perceuse, ou bien de faire un attentat dans la rue, ou bien de trouver un moyen pour que tout le monde disparaisse de la rue et qu'ils puissent rentrer dans la boutique de taxidermiste, et ben j'ai envie de les récompenser. J'ai envie de leur dire ouais, vous avez une bonne idée, allez-y, go. J'ai pas envie de leur dire non, 5 minutes plus tard, vous êtes ailleurs. Non.
Ah, t'imagines combien il faudrait de pages pour un scénario qui te permette de finalement, tu vois, là ce que t'as dit c'est qu'il y a du vent dans la rue, ça peut les empêcher, mais ils peuvent quand même traverser. Donc ça veut dire que dans le bouquin tu dois donner l'option 1, l'option 2.
Non, t'imagines non. Tu peux donner un plan et dire à certains endroits de la ville, un vent mystérieux contrarie les joueurs, les empêchant d'avancer. Voilà. Parce que tu raisonnes dans le mode d'écriture de cette campagne dans laquelle ils décrivent tous les choix possibles. C'est un livre. Enfin, à certains moments, j'ai eu l'impression de lire un livre dont on est le héros, avec toutes les options disponibles. Et si tu veux, c'était plutôt du Louardant que du Sorcellerie, si tu vois ce que je veux dire. Et c'est gênant. Moi, j'aurais envie qu'on me dise des informations peut-être plus globales, moins scriptées, mais dans lesquelles on a des éléments centraux, on arrive rapidement à les repérer. Il y a peut-être un peu plus de place pour l'adaptation, l'improvisation du meneur de jeu, ou bien qu'elle soit moins ambitieuse, tout simplement.
C'est marrant que c'est souvent ce qu'on reproche aux choses linéaires, et c'est souvent le nouveau mouvement des relis. C'est ça, c'est en réalité ce que vous attendez, c'est qu'on vous donne le moins de linéarité possible, donc on vous décrive que des petits éléments. Donc finalement, c'est on vous décrirait les villes, on vous décrirait le train, on vous décrirait des PNJ, et puis un bah même pas, parce que vous allez pas aimer avoir un métaplot vers lequel vous êtes obligé d'arriver, donc peut-être une menace.
Non, je t'assure, c'est pas le cas. Bon, par exemple, tu vois le scénario dans lequel il y a le procès, je trouve que c'est vachement bien fichu avec les différents réquisitoires et tout. Ça, c'est vraiment bien. C'est de très bonnes. C'est un détail. Ce sont des détails qui sont utiles et qui sont vraiment bons. Mais à quoi bon tout décrire lorsque on peut simplement procéder de manière un peu plus synthétique et plus intelligente, quoi.
Moi, tu le vois avec un œil expérimenté. Imagine, toi, te lançant dans ta première campagne, tiens, comme le gardien avec qui Yvon l'avait faite, tu aurais pas eu besoin de ce genre de petits conseils, de ces gros feeds qui te permettent aussi
de... Je prends un exemple. Est-ce que vous avez joué, je suis désolé de vous embarquer sur un autre JDR.
Tu es né bon gardien.
Non, regarde. Moi, je suis devenu... La campagne impériale. Regarde la campagne impériale. Est-ce que tu l'as déjà lu, la campagne impériale?
Moi, je l'ai joué. Ouais.
Ok. Tu l'as fait jouer, Fox?
Je l'ai fait jouer, ouais.
Ouais. Alors, tu vois la campagne impériale? Est-ce que, tu te rends compte sûrement que le tout dernier bouquin, L'Empire en Flamme, il est écrit d'une manière complètement différente des premiers. L'Empire en Flamme, il est très scripté, c'est si, ça, ouais. Ça, puis ça, puis ça, et parfois les joueurs n'ont pas le choix. Et maintenant tu prends Mort sur le Reich. Et ben pour moi, Mort sur le Reich, c'est l'essence même de la fantastique campagne. C'est-à-dire, je vais vous le décrire, les moments qu'on vit sont fantastiques, comme beaucoup de moments qu'il y a dans la campagne de l'Orient Express. Par contre, il y a juste une boîte à outils pour ce qui est des déplacements des joueurs entre ces scènes. Non seulement on ne prévoit pas dans le temps ce qui se passe, on sait ce qui peut se passer quand ils y vont après telle date ou avant telle date, mais on ne dit pas d'abord ils vont là, puis là, puis là, puis là. Ils explorent ce qu'ils veulent, dans l'ordre où ils veulent, ils peuvent ignorer des parties. Ça a des conséquences sur l'intrigue, mais ils ne sont pas obligés de passer dans certaines cases. On n'est pas dans un labyrinthe, on est dans une espèce de hall ouverte dans lequel il y a plein de paquets surprises. Et pour moi, ça, c'est une structure de campagne qui est fantastique. Et il me semble qu'elle est même antérieure à l'Orient Express. Ces mecs-là ont tout compris.
Mais attention.
Mort sur l'Arrak est plus un interlude entre différents épisodes aussi.
Il ne faut pas oublier non plus que le cadre de l'Orient Express est assez contraignant. Si je ne me gourre pas, vous avez quand même un train qui va de ville en ville. Donc un train, ça a une heure. Donc fatalement, ça veut dire que même si vous restez plusieurs jours dans une ville, vous êtes quand même contraint de retourner dans le train un moment ou un autre pour qu'il repart. Pour la crédibilité de la chose, effectivement, ce que tu soulignais, Desparit, il faut donc que les déplacements des joueurs soient un minimum gérés. Cela étant dit, je pense qu'il doit y avoir un équilibre quand même, parce que ce que tu m'en décris, personnellement, effectivement, ça ne me donne pas envie. Le coût de la boutique du taxidermiste, moi personnellement, je veux dire, si on ne veut pas que les joueurs rentrent dedans, pourquoi l'avoir mis là? Après, ça a peut-être un intérêt, mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
Si, 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 si.
Mais enfin, je trouve ça assez. En réalité, c'est assez étonnant comme façon de faire. C'est que, je sais pas, tu l'avais joué ou fait jouer toi des sprites
De
donc
quoi?
sur le rail qui est tout ça, la campagne de
Je l'ai
l'Imiterium.
fait jouer plusieurs fois.
D'accord.
Et j'ai commencé à y jouer, mais j'ai rapidement arrêté.
Parce que c'est, enfin, pour des gens justement qui veulent s'extraire de ce qu'on leur décrit, je trouve ça assez étonnant d'être aussi offusqué qu'on écrive mal le truc et que finalement j'ai l'impression que ça te bloque pour t'en extraire.
Bah parce
Et
que
c'est ça que je trouvais étonnant, c'est que
mais parce que dans la
j'ai
scène
l'impression qu'à
scriptée
partir du moment où c'est mal écrit, t'es obligé de le suivre. Alors
non
que
mais en
si c'est
fait
bien écrit, tu peux faire ce que tu veux. Alors que
attends
moi, si c'est bien écrit ou mal écrit, j'en fais ce que je veux, c'est ma
c'est
partie, je suis le maître du monde.
non
Tu
non
vois?
c'est pas ce que je reproche c'est pas la qualité de l'écriture, il y a des
Non,
campagnes
mais
qui sont
quand je
pas
dis
trop
mal
bien
écrit, je veux
écrites
dire point A, point B, point C.
Ouais, en fait, ce qui me gêne avec la campagne de Orient Express, et tu vas sûrement reconnaître certains moments, donc je te disais, je me plains des moments où on te force à faire une chose. Le truc, c'est que si jamais tu résistes d'une manière ou d'une autre, et que tu ne veuilles pas le faire, il y a des pans entiers du jeu qui tombent. Et même parfois, dans des situations où t'es vraiment emmerdé, tu passes à côté de pièces. Exemple, tout au début, à Paris, si, où c'est, ouais, c'est à Paris, si les gens... Si le groupe d'investigateurs ne va pas passer un certain nombre de jours dans les bibliothèques pour enquêter sur ce qu'on leur a dit, ils vont jamais, jamais, jamais tomber sur l'intrigue qui suit, y compris avec la crypte et tout ça. Et puis le vampire ne va jamais finalement les détecter. Enfin, on est sur un énorme inconnu, un trou dans la trame événementielle. Et derrière, t'es un MJ débutant. Ben, quand tu prends conscience de ça, même intuitivement, tu vas te dire, il faut à tout prix qu'il rate pas ça, et il faut à tout prix qu'il continue à étudier dans cette bibliothèque, d'une manière ou d'une autre. Tu vois, ça te fout une pression. Et moi, mes joueurs routards, ou bien des jeunes joueurs qui sont épris de liberté dans leur jeu. Mais non, mais c'est vrai. Eh ben, ils vont être frustrés, quoi. Imagine un mec qui joue un gangster. Le mec, il a pas du tout envie d'aller dans une bibliothèque. Il a rien. En bibliothèque, le gars il va rester à l'extérieur et ben il va se faire chier pendant 3 jours pendant que les
Alors
mecs ils
c'est
sont à la
voilà, mais
bibliothèque.
c'est ça votre problème, c'est que dans les parties que vous faites, vous, les narrativistes, chacun doit
Je
se
suis
faire
pas
plaisir. À... Si, si,
narrativiste.
chacun
Non.
doit se faire plaisir. C'est ça le problème, c'est qu'il n'y
Mais...
a pas de notion de groupe.
Non, non, bon, voilà, tu mélanges tout, je
Y a pas
t'assure.
de... Ah non, c'est sûr. Il n'y a pas de notion de méta-jeu. C'est-à-dire que j'ai fait un perso, machin. Tu te rappelles du gros Bill? Moi, je suis comme ça, je fonce, machin et tout ça. C'est un peu ça, c'est-à-dire que, ouais, il y a des moments, je suis désolé, dans un groupe, bah, t'accompagnes le groupe. Mais il y a des moments, ouais, où
Ouais, mais
t'es...
pas pendant une séance de jeu, quoi. Enfin, imagine,
Attends.
c'est chiant. Enfin, le gangster à la
Attends,
bibliothèque, tu fais quoi? Moi,
t'auras ta
je lui propose quoi à
séance de
Paris?
poursuite après. T'auras
Non,
ta...
mais
Non, mais il
d'accord.
peut...
Mais mes joueurs aiment bien écouter ce que font les autres. Je suis pas contre. Mais si tu veux, ils viendraient pas. Par exemple, si on avait une équipe un gangster, un faussaire, un magicien et tout ça, ça va peut-être les gaver. Mon équipe d'aller à la bibliothèque pendant 3 jours à chercher des trucs sans
Mais
arrêt.
non, mais des sprites,
Alors.
faut être cohérent.
Mais
Tu veux,
tu vois
si
bien que c'est
tu montes.
obligé.
Attends,
Enfin,
attends.
mon
Non, mais laisse-moi
argument, c'était de
terminer.
dire que c'est un pass. Oui.
Laisse-moi terminer. C'est juste que tu vois, tu pars sur un postulat qui est pas bon. C'est que toi, quand tu vas créer ton équipe, c'est des gens très cultivés, très inventifs. Donc, il va créer. Il y en a un, ça va être son domicile fixe, mais un peu mystique. L'autre, ça va être un magicien avec des pseudo-vrais pouvoirs et tout. Mais non, pour Terreur sur Orient Express, il faut que ce soit des gens, genre un homme d'affaires, un privé, tu vois, il faut que l'équipe, tu peux, dès le début, c'est sous-tendu par le fait que ton équipe, il faut qu'elle ait un
Ok.
but commun, il
Alors,
faut qu'ils se retrouvent deux
deux
choses
choses,
dans
deux
Orient
choses.
Express.
deux choses. Vas-y. Alors, la première, c'est que, effectivement, ce que voulait dire Desparit, et il avait raison, c'est que pour utiliser une image, il faut pas que tu mettes un couloir avec des coups de bâton sur le rat pour qu'il avance, c'est très désagréable. À la place, tu peux mettre un hall avec plein de portes, et tu mets une grosse carotte bien en évidence, là où tu veux que tes joueurs aillent, ce qui est beaucoup plus agréable. Donc, par effectivement, quand tu veux faire passer 3 jours dans tes gangsters à la bibliothèque, il faut donner une bonne raison aux gangsters d'y aller. Après, au scénario d'être inventif. Et c'est peut-être ça que des scénarios d'attente.
Ça revient au même. Ça revient au même. Donner des coups de bâton pour aller dans une direction ou mettre une carotte, c'est pareil.
Non, parce que quand tu mets une carotte, le joueur a la liberté ou pas de la prendre.
Il croit l'avoir. Il croit avoir la liberté. Parce qu'il a l'impression qu'il a choisi le truc, mais en fait, il l'a pas choisi, comme dans le premier cas.
Mais sauf que...
Ouais, mais dans ce cas-là, tes joueurs, c'est les figurants, quoi. Enfin, c'est... Je sais pas, il y a pas de matière, tu vois. Là, il y a un truc où, fondamentalement, et c'est quelque chose qui existait bien avant le narrativisme, et je m'en défends, je ne suis pas du tout narrativiste. Mais bon, je sais que c'est un
jour
entre nous. Mais, bien sûr, mais on sait que c'est galvaudé comme terme. Bon. ce que je veux dire, c'est que ça me gêne. J'ai l'impression que dans ce jeu, les personnages sont des figurants. À l'instar un peu de ce que j'ai pu observer dans les montagnes hallucinées, il y a beaucoup de similitudes au niveau des personnes qui ont participé à la rédaction de ces deux campagnes. Ça me gêne beaucoup de sentir que les personnages de mes joueurs sont des figurants. En fait, l'intrigue tourne autour de l'Orient Express, autour du vampire et autour du simulacre, mais pas autour des joueurs. Les joueurs finalement ne font que courir après les personnages hauts en couleur et les entités hauts en couleur de cette campagne. Ça me gêne.
Alors c'est assez étonnant parce que au début du speech, tu étais d'accord avec moi pour dire que le retournement de situation, le fait qu'on se soit fait manipuler depuis le début, c'était une bonne idée.
Oui.
Mais ça c'est pire que.
Mais ça c'est un moment.
C'est le rat. Mais non, mais c'est le rat qui sait pas qu'il est dans la boîte. C'est pire.
Mais
que
c'est
tout.
Un moment. Mais c'est juste un moment. C'est un moment de l'intrigue. Il se passe ça. Moi, ce que je te dis, c'est ce qui est emmerdant, c'est que ça se passe. Le reste, c'est tout le temps. Dans tous les chapitres, il y a des moments où les joueurs, ils sont obligés de faire ça. Alors, on peut le présenter de différentes manières. Des fois, il y a des gens qui usent de force physique. D'autres fois, c'est de la menace. Parfois, il y a du brouillard ou des trucs mystiques ou de la drogue. Mais ils sont sans cesse obligés, à des moments, d'aller à la séance suivante.
En réalité, j'ai l'impression que vous, ce qui vous gêne, c'est que... On vous le présente de façon négative en disant si tu vas par là, tu vas te faire taper, là tu vas mourir, mais là, à la limite, tu t'en sors. Vous auriez préféré, là tu auras un bonbon, là tu auras deux bonbons, et là tu auras un gros paquet de bonbons. C'est ça que
non,
vous auriez alors, plus positif.
On va en
parler. Que ce soit facultatif.
Pour faire simple, imaginez-vous, vous spawnez dans une pièce et. Et le maître joueur a prévu une porte. Mettons qu'il l'ait prévu sur le mur nord, je dis une connerie. Et là, le joueur se dit, je ne sais pas pourquoi, je ne me tourne pas vers le mur nord. Alors, ce qu'il faut faire, c'est que... du mec vers le nord, c'est pas le forcer à regarder vers le nord. Ce qu'il faut faire, il se dirige vers le mur ouest. Eh bien très bien, la porte elle est dans le mur ouest, c'est pas grave.
Non, mais ça, tu peux pas t'en sortir. Tu peux pas t'en sortir comme ça. Déjà, il y a une erreur dans ta description, c'est que si le mec est pas tourné vers le nord, il voit pas la porte apparaître.
Non, mais je
comprends ce que tu veux dire. Mais ça, le coup du pivotage, ça empêche pas la linéarité.
Ouais, c'est même pire.
Mais l'idée, c'est de gommer le sentiment de linéarité, quoi. Parce que je sais pas si on s'est tous déjà retrouvés face à un jeu qui nous dit bon bah là tu es ému ou bon là, le cas typique bon bah là tu as peur donc tu vas faire demi-tour. Non.
Oui.
Si t'as pas de raison d'avoir peur.
Si tu le pousses, d'accord. Mais par exemple le coup de la bibliothèque. Si les gens ne vont pas à la bibliothèque, pour l'instant ils avancent pas dans le scénario.
Voilà, et puis qu'est-ce qui se passe?
Ah bah tu continues, tu développes
en fait,
la ville.
Non mais d'accord, mais tu vois que les gars quand ils ont écrit leur campagne, ils se sont dit qu'à aucun moment, enfin comment dire, ils ont même pas imaginé que les joueurs pourraient avoir un libre arbitre différent. Ils se sont juste dit, voilà, maintenant ils vont être forcément obligés de passer par la bibliothèque, donc j'écris la bibliothèque et tout ce qui découle de la bibliothèque. Mais tu vois le problème de construction et de rédaction de la campagne. Les mecs sont même pas capables d'imaginer que les joueurs osent avoir un libre arbitre. Mais non, puisque finalement les joueurs sont dans le train fantôme, on leur dit, on leur fait sentir où aller à la prochaine étape.
Et
Ça va pas. C'est pas une campagne, ça.
Imaginons que tu es inclus dans la campagne, des types qu'ils aient rencontrés dans l'Orient Express. Parce que, enfin, t'as beau dire que c'est linéaire, t'étais le premier à dire qu'il y avait une super galerie de PNJ au début, et ça nous a permis des moments d'improvisation et de se faire des potes et tout ça, et des aides vachement intelligentes, enfin, vachement intéressantes. Et pourquoi ça serait pas au moment où ils remontent en disant, putain, je crois qu'on a fait chou blanc, ben, un mec qu'ils ont rencontré, qui lui aussi est descendu là, va discuter avec eux, et au fur et à mesure, ils vont se découvrir que lui, il est allé à la bibliothèque.
Alors
C'est possible aussi.
super méthode, moi je suis tout à fait d'accord avec la tienne, là on sent pas cette contrainte et tout, mais encore une fois, là tu me proposes une adaptation de la campagne, tu me proposes une pratique de la
Voilà.
campagne, et
Donc
moi
l'idée,
je peux
c'est.
pas critiquer, je peux pas critiquer la
Ben
campagne
oui,
dans
mais.
laquelle t'as joué, je critique le bouquin.
Donc
Dans
l'idée
l'idée.
est très bien vendue, mais pourquoi elle n'est pas inscrite noir sur blanc dans la
Mais
Bible?
parce qu'ils peuvent pas tout inscrire, les mecs. Ou l'œil arraché.
Mais c'est ça
L'œil
aussi.
arraché, ça c'est symptomatique, tu vois. Moi tu lis le début, mais j'ai lu le passage mais 10 fois. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il y a dans le pitch au début où il raconte les différents, enfin il résume, il synthétise les différents passages de la campagne. Il y a marqué là, à un moment, un personnage aura son œil arraché. J'ai quoi? Quoi? Mais comment tu peux truquer un combat pour qu'un personnage ait un œil arraché? Enfin je veux
T'as
dire,
jamais
ah, si.
truqué un
Alors,
comble, hein.
ça m'est déjà arrivé, mais c'est super chaud. Si maintenant le gars te fait succès critique sur succès critique, t'es là, mais ok, juste tu lui poutres la tête, quoi.
Mais sans
Est-ce qu'il se précise
déconner,
lequel?
Je
Ouais,
dis pas que c'est pas
ce
faisable.
qu'elle œil.
Voilà,
Je
ça sera un
le
autre.
droit, je crois.
Mais en fait, si tu veux, c'est pas tant le fait que est-ce qu'on peut y arriver ou pas. Le problème, c'est que le mec qui a écrit la campagne a décidé qu'à un moment, un
Oui.
personnage se faisait arracher l'œil. Alors que techniquement, les combats sont censés être des moments où le hasard a une grande place et où on fait les jets de manière visible à table. Tu vois, où il y a une mécanique
Mais
qui est
c'est faux
connue des
ça.
personnages. Non,
Mais c'est faux. Le
mais
combat,
c'est suspect, quoi.
le combat n'est jamais un truc complètement aléatoire. Sinon, enfin, il y a des
Mais non,
campagnes que
j'ai pas dit
tu.
que c'était complètement aléatoire, mais il y
Ah,
a une forte
c'est horrible.
part
T'es parti.
d'aléatoire.
C'est horrible. T'es parti.
Bah,
T'imagines.
demande à mes
Tu dois avoir
joueurs.
des campagnes. Tu dois avoir des campagnes. Ouais, mais t'as des campagnes qui tombent à l'eau d'un coup. Parce que si vraiment tu bases que sur l'aléatoire,
Mais oui.
moi je me souviens de moments où les mecs ils ont pas d'options. Heureusement que j'étais là pour les sauver. Sinon, bah,
Non.
la campagne, on l'aurait
Alors,
fini.
je vais citer une scène symptomatique. Les joueurs ont manqué de bol et ont fait de mauvais choix dans une de mes campagnes. C'était les masses de Nyarlathotep. Ils sont allés me voir Mveru pour taper le carton et discuter tailler la bavette sur la montagne du Mont Noir. Ils sont morts les uns après les autres jusqu'à ce que tout d'un coup il y en a un qui comprenne. Putain, mais on va tous y passer. Et le mec s'est barré avec Mahmoud en catastrophe en allant dans la jungle. Là, j'ai fait
Eh
fondre du
ben,
noir. Attends, attends, j'ai fait fondre du noir.
vas-y.
Et derrière ça, la campagne a repris, c'est remonté, ils ont perdu 3 mois avec le stress de la date. Et ça s'est remonté, et après, les joueurs étaient vachement plus sérieux, impliqués, et moins, tu sais, on prend tout à la rigolade avec des bâtons de dynamite, et on y a
Ouais, mais
vachement gagné en qualité.
Death, tout ça, c'était pas écrit.
Ouais, c'est ce que j'allais dire.
Mais oui, mais là, on ne fait pas une critique de ce qui est écrit ou pas. Vous, t'es
Oui,
en
bien
train de
sûr.
critiquer, et t'es en train de critiquer, mais potentiellement, ce qu'il pouvait
Le
redouter dans mes parties.
coup le
Il
coup
était en
le
train de me dire que dans mes campagnes, on pourrait arriver à un moment où tout le monde crève bêtement, Pan est mort, et puis c'est fini à cause du hasard. Non, le hasard ne détermine pas tout dans mes campagnes. Bon, ne me fais pas dire ce
Non,
que j'ai pas dit. Ce que je te dis simplement, que c'est
attends, attends,
dans les combats,
discrète,
on est d'accord que
discrète.
pour porter un coup, les gens jettent un des 10, comparent ça à leur score de combat et voient comment ça se passe. Quand ils font un jeu d'esquive, ils font aussi jouer le hasard. Si maintenant un mec a une brute d'esquive, et puis les autres sont pas là parce qu'ils sont cachés derrière lui et le mec est en première ligne, comment tu justifies que le mec va t'arracher un œil? Non mais vraiment,
Bah,
comment est-ce que tu
enfin,
peux comment
je te
est-ce que
rappelle
tu
que. Alors, je te rappelle juste pour ta gouverne, parce que je sais que t'aimes pas les trains, mais tu es dans un train en mouvement. La personne, moi, c'est moi qui me suis fait arracher l'œil. La personne qui va t'arracher un œil, tu te doutes absolument pas qu'elle va t'attaquer. Que en plus, si je pense qu'à l'époque, mon maître ne s'est pas trop trompé, mais je pense que la luminosité doit être assez faible dans un wagon, si ça se passe de nuit, et que par moment, à cause du passage de rail en rail, la lumière doit pouvoir sauter. Et ben moi, je me rappelle que la scène où je me suis fait arracher l'œil, bon, je lui en veux encore à mort, parce parce qu'il a estropié le personnage, mais je ne l'ai pas vu arriver. Et
d'accord.
Je me suis pas dit, ah putain, ça devait être écrit dans la campagne qu'on devait m'arracher un œil.
On en revient à ce que je disais tout à l'heure. Là, on est en train de parler, on est en train de critiquer positivement la prestation de ton MJ. Et là, je suis d'accord, c'est super, c'est bien fait, c'est bien amené.
Mais
moi, je parle de la campagne. On critique la campagne. La campagne ne propose pas ça, tu vois. La campagne est beaucoup plus straight.
Le problème des sprites, c'est qu'on n'est pas à apostrophe. On n'est pas en train de faire une critique de bouquin. On fait une critique de bouquin de jeu de rôle.
Mais c'est ce qu'on fait.
On critique pas, donc, la substance. On critique pas la substance même du bouquin en tant que tel. On critique le support pour pouvoir jouer avec des joueurs, tu vois.
C'est exactement ça. Et moi, je te dis que le support ne propose pas de moyens d'amener ça comme ton MJ l'a fait spontanément.
Je suis d'accord. Il peut pas te les proposer tous.
Bah donc, on critique une campagne. Enfin, je veux dire, il faut qu'on se base sur quelque chose, un référentiel commun et objectif.
Ce que je veux dire, c'est qu'il peut pas tout proposer. Non, bien sûr.
Mais alors, dans ce cas-là, qu'ils ne disent pas, à un moment, un joueur se fera arracher un œil. Non.
Non, mais.
Alors, dans ce cas-là, tu trouves une autre solution, quoi. Tu dis, un joueur fait un rêve. Tu dis, si jamais, le joueur, est dans le nuage de poussière magique, alors il va respirer, il se passe ça. Mais tu dis pas, là, il y a un joueur qui se fait arracher un œil. C'est comme à la fin de la campagne, à un moment, il y a un joueur, il se fait prendre d'assaut, par un jet en opposition, 23 en pouvoir, et, le mec, il rate, bon, point, t'es mort. Ok, non, c'est le final de la campagne. Le mec, il est chauffé à blanc et on lui fait un panté mort sur un jet de dés. Pourquoi? Parce que les joueurs, parce que les concepteurs ont trouvé que c'était bien, tu vois. Voilà.
Non, mais ce que veut dire Von aussi, c'est qu'effectivement, on peut pas envisager sur une bible toutes les possibilités que peuvent imaginer des joueurs.
Je suis
d'accord. Mais je pense également qu'il doit y avoir un juste milieu, c'est-à-dire qu'on doit proposer des pistes, même si ça tient sur quelques lignes.
Oui.
Des alternatives peut-être possibles si. Pas des idées farfelues, mais si par exemple il y a un passage obligé, si les joueurs n'y vont pas, proposer une alternative ou un moyen de recentrer la chose.
Alors là, d'accord. C'est pas le pied de la campagne pour moi en termes de transition, mais c'est le minimum syndical.
Alors, bon, c'est étonnant parce que.
Desp, c'est l'avocat du diable, mais il y en a quand même des moments comme ça, avec différentes
pistes proposées. C'est vrai. Parfois ça arrive.
Oui, c'est ça qui est. Enfin... C'est ça que je trouve étonnant dans la critique qu'on puisse faire à cette campagne. C'est que autant il y a des campagnes qui se prétendent ouvertes, mais celle-là, elle se prétend pas ouverte, elle se prétend linéaire. Et
tu ne sais pas avant de l'acheter. Si tu parles pas avec des gens qui l'ont joué, tu ne sais pas.
À l'époque.
109 euros.
Dans les années 80, tu le savais pas. Là, ok, si t'as pas internet, si machin, si, ok. Là non plus, tu te fais niquer. En même temps, quand tu vas dépenser 109 euros, je sais pas, tu te renseignes un peu, tu vas sur Le Bon Coin, tu vas sur fouillertrouver.com, Amazon, tu vas voir des critiques. Et comme tu es quelqu'un d'assez avisé, tu vas aller sur Toc. Et là, tu vas voir que cette campagne divise parce qu'il y en a qui la trouvent linéaire et d'autres pas linéaire. Donc, on te force pas à l'acheter pour sa non-linéarité. C'est un peu marqué dessus. Et la preuve, c'est que toi qui l'as dit, sur la version des années 90, en plus, t'avais la fin du scénar qui était sur la couverture. Donc là, en plus, t'es obligé d'arriver à la fin, parce que les gens vont se dire, sinon, à quoi ça sert d'avoir fait une couverture pareille. Ce que je trouve dommage, et c'est là où, finalement, ça lève quelque chose qui est assez intéressant, c'est que pour toi, on peut tout à fait discuter d'un bouquin en tant que bouquin, et en tant que bouquin de jeu de rôle, mais en tant que bouquin, et tu trouves ça d'ailleurs plus objectif. Alors que moi, discuter un bouquin de jeu de rôle, c'est pour ça que je trouve ça assez hallucinant que quand t'as une critique d'un bouquin de jeu de rôle, genre 2 jours après sa sortie.
Ah mais ça je comprends pas non plus.
Surtout qu'on fait une critique objective, on dit qu'est-ce qu'il y a dedans. Et on dit qu'est-ce qu'on ressent à la lecture. Voilà. Mais les gens qui disent cette campagne va être géniale, comment tu peux faire dans ces cas-là si tu as délié le support et la façon de jouer.
Donc, je suis d'accord avec toi. En fait, quand tu lis une campagne de JDR, à mon avis, tu prends toujours vachement plus de temps. Je sais pas comment toi tu l'abordes, mais moi je m'imagine toujours en train de le maîtriser. J'imagine et à ce moment-là, je suis sûr que lui il ferait ça, etc. Et donc du coup, je passe du temps à rêvasser entre les lectures, entre les moments. Bien sûr, ça se lit pas comme un bouquin, sauf.
Le problème, c'est que moi, mon analyse se repose sur après cette phase, alors que toi, j'ai l'impression que ton analyse se repose avant cette phase de je digère, non? Toi, c'est...
Non.
Bah, j'ai l'impression que c'est à l'aller, parce que moi, quand je lis dans le bouquin Arracher l'œil, si j'en reste là, je vais dire putain, galère quoi, comment je vais faire ça?
Bah moi je vais
Alors
plutôt
que.
me dire qui est le taré qui me dit que ça doit se passer.
Bah, parce que le mec, il veut t'arriver à un endroit, mais par
Bah
contre.
voilà, et bah c'est ça qui me fait chier! C'est ça qui me gave! Parce que si le mec il veut que j'arrive à un endroit, soit, mais alors qu'il me propose un moyen qui est beaucoup plus, on va dire, consensuel pour moi et mes joueurs. Plutôt que, bon, alors à un moment, tout à coup, la lumière décroît et le mec te saute dessus, t'arrache l'œil. Tu veux dire qu'il me crève l'œil? Non, non, il te l'a arraché comme dans Kill Bill. Hein? Mais j'ai pas fait de jet d'esquive, je peux en faire un? Non, parce qu'en fait, il a bondi d'un coup et tu t'y attendais pas. Attends, je vais faire un jet de mon côté. Oui, non, non, il t'a arraché là. Tu vois, ça la fout mal, quoi. Ça la fout mal. Si tu arrives à dissimuler ça, et je dis pas qu'on peut pas le faire, à MJ qui est talentueux et qui est un petit peu aidé par la chance, par exemple le mec qui fait un échec critique à son jet d'esquive, alors là ouais tu peux dire ok, enfin il tombe dessus, attends je vais faire la localisation, tu dipotes un peu
Mais
quoi, t'as l'œil.
juste pour savoir, quand tu fais des parties de jeu de rôle, quand tu fais des combats, tu montres toujours les jets de dés que tu fais.
Non, 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 la plupart du temps je les fais derrière mon écran, mais quand on a des
Bah
jets de
alors.
dés. Alors je t'explique, quand on
Bah
a des
alors,
jets de dés
enfin,
qui sont cruciaux, dans lesquels un joueur peut mourir, par exemple un mec qui tient en joue mon personnage et qui va tirer, je jette les dés devant lui pour qu'il le voie. Mais par contre, dans les combats au corps à corps, quand tu vois une attaque venir, je permets toujours à la personne de faire un jet d'esquive. Toujours.
non,
Même quand
mais.
je fais un succès critique, je lui dis, écoute, tu vas devoir faire un jet d'esquive, mais il va falloir que tu fasses un succès critique si tu veux réussir. Et comme j'ai ce rythme et cette espèce de, si tu veux, de confiance avec mes joueurs sur la manière dont se passent les combats, non seulement il y a une tension à table parce qu'ils savent que moi je vais pas les sauver, et donc les combats c'est des moments qui sont vraiment sérieux et impliquants, et derrière, eh ben ils savent que ils ont le pendant positif, c'est que quand moi je fais mes jets de pute derrière, ils ont toujours la possibilité de faire un jet d'esquive, et quand je fais un jet décisif, du genre le mec est au-dessus de toi avec la hache et va te la planter dans la tête, je jette les dés devant le joueur. Comme ça, il réalise et qu'au moment où je jette le dé, il se passe un truc dramatique excellent à table. Comme j'ai cette habitude de jeu, si j'en change maintenant, ça va pas. Tu
Non,
vois,
mais c'est assez étrange parce que tu veux dire que tu ne te permets pas le gros avantage du maître de jeu d'être le maître du monde et de faire ce qu'il veut au moment les plus cruciaux du scénar, c'est ça?
Non, parce que je trouve que le hasard fait débarquer des choses qui sont parfois vachement plus intéressantes que le scripté. J'aime bien être en difficulté. J'aime bien être en difficulté. J'aime bien
Alors
que tout d'un
imaginons,
coup, à table,
imaginons.
les gens se fassent tataner par un petit jeune qui leur a piqué leur portefeuille. Me dire, oh putain, tiens, bah, on va dire qu'il est champion d'arts martiaux, quoi. Et puis derrière, ça fait des rebondissements. Le gars va se barrer avec leur portefeuille, il va se passer un truc, il va usurper leur identité.
Non mais
Pour
enfin
eux,
là je comprends pas. Enfin je comprends pas, c'est assez bizarre parce que qu'est-ce qui t'empêche de faire ça avec le mec qui va arracher l'œil du type?
bah parce que si mon joueur a le droit à un jet d'esquive, il y a un
Attends, non, non, non,
énorme.
non, 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 non. Mais dans ce cas-là, tu lui fais ce que tu m'as dit tout de suite, tu m'as dit le mec il arrive par derrière, tu te doutais pas qu'il allait te sauter dessus, impossible de se douter, donc tu me fais un critique. Tu peux lui dire ça ton joueur?
Je suis d'accord, mais si mon joueur, admettons, je lui dis voilà, dans le train, la lumière saute, s'allume et saute, moi mes joueurs ils peuvent très bien me dire attends, j'ai pas confiance, je me barre. Enfin, tu vois,
Mais
comment dire?
il croisera quand
Si
même
tu veux,
le gamin.
on peut discuter longtemps de cette situation et de la manière dont on peut l'amener. Ce qui
Oui,
me
mais.
gêne, c'est que les auteurs exigent du MJ qu'il triche. Et j'ai pas de problème avec le fait de tricher derrière le paravent, c'est pas grave, c'est pas ça. Mais ce qui m'embête, c'est que ça soit exigé en dernier ressort et qu'il n'y a pas d'autre solution. Et si un joueur, si maintenant il y a des MJ, moi j'en suis un, mais il y en a peut-être d'autres, qui trichent peu pendant les combats parce qu'ils trouvent qu'il y a un enjeu dramatique intéressant à ne pas tricher, comment justifier, comment les aider à passer de leurs habitudes de jeu traditionnelles à tout d'un coup, bon, j'éteins la lumière pour faire le jet de dés. Je n'aime pas ça, c'est dirigiste, c'est pas bien amené, quoi.
C'est étonnant parce
Dark
que
Keeper
c'est.
le disait tout à l'heure, je trouve que c'est intéressant de proposer des alternatives, tu vois. D'amener les choses plus finement. Pour moi, c'est lourd, quoi. Tout d'un coup, quelqu'un vous arrache l'œil. T'imagines pas la difficulté pour arracher l'œil de quelqu'un?
Après.
Enfin, je veux dire, du crever un œil, je veux bien, mais arracher l'œil de quelqu'un?
Mais on, voilà, enfin, des sprites, on allait appeler au Toulon, un jeu de rôle aussi.
Après, je pense merde. Que je pense aussi qu'il y a un aspect logique de façon humaine. Donc, je donne un exemple très simple. Si vous voulez que, si vous arrivez dans une scène de meurtre et que vous voulez que les joueurs trouvent que l'assassin est un capitaine qui habite à côté, mettez des indices qui fait que ça va être le capitaine. Si vous voulez qu'un des joueurs se fasse arracher un œil, c'est pas facile, j'en conviens. Mais mettez-le en situation pour se faire arracher un œil.
Exactement.
Pas, bon, c'était train de nuit, couchette. Il était attaché parce que
exactement.
Il a sa ceinture à son train. Et là, il y a un mec qui arrive ou deux mecs qui lui tiennent le crâne et le mec il arrive avec une cuillère et puis boum, c'est fait.
Ah ouais, alors là, ok quoi. Là, je signe.
C'est
pas ce que la campagne écrit.
Mais non, mais dans ces cas-là, tu le vois carrément venir.
Ben moi, oui, mais c'est encore plus horrible. C'est encore plus horrible.
Non, mais quand
tu pionces, imagine-toi, tu pionces et tout d'un coup quelqu'un te tient la tête. T'es en pleine nuit, t'ouvres les yeux, il fait nuit et tu vois juste le reflet d'un objet. Tu penses
bon,
que c'est de là,
ça,
mais c'est
très très bon.
Non, mais c'est juste une cuillère, quoi.
Attends. Est-ce que t'as fait faire un jet à ton joueur pour qu'il se réveille? Le mec a fait un bruit. Le mec a peut-être fait un bruit. Ça se trouve, moi, je suis un joueur et mon joueur, il entend très très bien.
Bah, les trains,
c'est
trains font du bruit.
C'est marrant dans ce cadre-là, tu me fais pas faire de G.
Mais si, alors, tu peux.
Je pourrais avoir un G pour sauver.
Mais non, mais ça passe beaucoup mieux. Non, bon, ça passe beaucoup mieux. Parce que tu peux expliquer aux gens le tac-à-tac du train, t'étais très fatigué. Tu vois, le joueur peut plus comprendre. Parce que si tout d'un coup, il y a une différence entre se réveiller en sursaut avec des gars silencieux autour de toi qui marchent sur de la moquette. Être dans un combat où tout d'un coup un mec se téléporte et te fait la prise du héron pour t'arracher ton œil et tu n'as pas le droit de faire de jet d'esquive. Tu vois, là il y a une vraie différence. Là le joueur il sent qu'il y a un truc qui lui échappe.
Donc,
merde, mais attends, j'ai pas fait de jet d'esquive.
Pour conclure, je dirais que c'est pas un problème tant de mise en scène, c'est un problème de crédibilité.
Ouais.
Mais ça peut être crédible, on fait du jeu de rôle les mecs.
Et on fait de la bébé de Cthulhu.
Je crois que le pire là où vous allez hurler, je crois que la personne qui retire l'œil, c'est un gamin. Donc en plus, il aurait même pas la force pour retirer l'œil.
Ni
la
hauteur.
Bah oui, forcément.
Il n'est pas assez
grand. Et je suis désolé de vous dire que l'Orient Express, on est incapable de le faire fonctionner comme ils disent dans le bouquin, parce que il y en a un environ toutes les 3 semaines, je crois, un truc comme ça, et puis ça arrête pas des plombes.
Non mais attends, donc, ça c'est des entorses, c'est des entorses à la réalité qui sont pas graves, qui passent. Moi ce que je te dis, il y a une différence entre ne pas respecter les horaires officiels de l'Orient Express dont tout le monde s'en fout. Il faut que ça soit un réalisme qui soit crédible. Voilà. Il faut pas qu'il y ait d'extraterrestres ou de pistolets laser qui se baladent dehors.
Je te rappelle qu'au début de la campagne, tu fais quand même mumuse avec des intestins comme si tu jouais avec un train électrique.
Mais ça aussi cette scène, tu vois, c'est
elle est démonte.
Ouais, alors maintenant si tu veux, on a beaucoup parlé de cette histoire de l'arraché, mais on peut peut-être aussi maintenant aborder d'autres thématiques parce que ça commence à faire long sur le sujet, hein. Bon, après on peut encore en continuer. Mais par exemple, moi je parle de l'horreur lovecraftienne. Je trouve que c'est une campagne qui n'illustre pas les thématiques de l'horreur lovecraftienne, et je trouve qu'on est plutôt sur des thématiques d'horreur plus classiques, un peu à la chill tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez?
Sur ce point, t'as raison, hein, je trouve. Ouais.
Ouais, alors je me suis pas réfléchi, c'est vrai que c'est assez juste, ouais. En plus on passe dans des thèmes d'horreur, des différents pays qu'on rencontre avec Baba Yaga, des trucs comme ça, donc c'est pas très. Non, c'est pas foncièrement l'enfrave, tiens, tout à fait. Ouais.
C'est pas négatif en soi, mais je pense que ça. Enfin, on gagne peut-être à en parler parce que il y a peut-être des gens qui apprécient particulièrement la thématique. Là on est un peu plus sur des thématiques, je veux dire, traditionnelles. Un peu plus humaine aussi, et il n'y a pas énormément de passages extrêmement grandiloquents.
Il n'y a pas beaucoup d'entités, hein.
Ouais,
d'entités du mythe, hein.
Ouais, c'est ce que j'allais demander.
Mis à part le peigne à rejetons de Shub-Niggurath, quand la maison courante te suit.
Et les Loigors aussi.
Et les Loigors, ouais. Ouais,
ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai que c'est pas très très finalement. Ça c'est une remarque tout à fait objective, c'est pas très très Lovecraftien, c'est plus ouais de l'horreur, on va dire de l'horreur européenne, quoi, des mythes, des légendes, des
fantômes.
Choses comme ça, voilà, exactement.
Bon, je pense peut-être maintenant vous pourriez reprendre un peu la main pour raconter un peu comment c'est amené tout ça, parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé des morceaux crunchy. J'ai beaucoup pris la parole pour râler, mais il y a des moments excellents, les maisons hantées, les asiles d'aliénés. Vous voulez peut-être un peu en parler, non? Je vous entends plus.
Eh bien, vois-tu, il va. On va essayer de patienter quelque peu, en attendant que notre présentateur adoré revienne.
Effectivement.
Par malheur, nous ne pouvons vous proposer une musique d'ascenseur, et ni de violon ou de musique classique. Donc effectivement, moi je connais pas du tout la campagne, mais c'est vrai que je me demandais quelles étaient les entités du mythe derrière au final, parce qu'on était dans le spoil. C'est vrai que personnellement j'ai du mal à voir le lien entre cette espèce de pantin de bois qui est ce simulacre et le mythe au final.
Fox, tu veux peut-être prendre la main là-dessus ?
Alors là, j'ai découpé, excusez-moi.
Ah. Non, mais on a mis une petite musique d'ascenseur, on a fait un gérer d'inquiétude.
Intermède.
Allez-y, allez-y.
Ouais, en fait, Dark Keeper demandait, et puis moi aussi un peu, est-ce qu'on peut évoquer un peu le pitch général, quelles sont les entités qui sont en présence, tout ça.
Alors, dans mon souvenir, tu me compléteras, Fox, mais donc en réalité, on est tout de suite pris en main donc par le méchant qui va nous amener à faire cette campagne, à rechercher donc les artefacts, dont le but est de réveiller une entité, je crois, c'est ça, en rassemblant tous les artefacts. Enfin, c'est ça, Fox.
Oui, oui.
Et le principe, c'est que en réalité, il n'est pas tout seul. Il fait partie de ce qu'on appelle la confrérie de la chair, si je me souviens bien. C'est une espèce de confrérie qui est finalement dévouée à essayer de faire renaître cette entité. Et alors là, bon, vous allez vous déchaîner, Dark Keeper et des sprites, mais en réalité, on se demande pourquoi une telle organisation n'est pas capable de retrouver les morceaux d'artefacts tout seul, et pourquoi elle demande à en effet une équipe d'investigateurs.
Oh, parce que 5 mecs ont probablement plus de chances que toute une organisation que de ratisser les 10 millions de kilomètres de l'Europe.
Exactement.
Et voilà. Puis ça serait moins vendeur s'ils avaient résolu le problème de leur côté.
Donc le fait est qu'on doit rassembler ces différents morceaux. Je crois qu'il lié à ça, il y a le parchemin aussi de CDFK ou quelque chose comme ça, où on doit rassembler différents morceaux du parchemin pour finalement faire le sort et finalement faire revenir, je sais plus si c'est CDFK lui-même ou un truc comme ça. Je sais plus trop qu'est-ce qu'on fait revenir.
C'est l'écorché, non ?
L'écorché, oui, pardon.
L'écorché, oui.
Et qui d'ailleurs, je sais plus, parce que moi je suis pas très fort en mythe de Cthulhu, mais c'est pas une entité du mythe, l'écorché.
J'en ai pas connaissance personnellement, mais après peut-être.
C'est pas une vision du roi en jaune ou un truc comme ça, non ?
Un avatar de Nyarlathotep, non ?
Ouais, je me demandais.
Il me semble que tout au début de la campagne, il y a le nom de Nyarlathotep qui pop. Je regarde pendant ce
temps. Mais le pitch, en réalité, de la campagne, c'est ça. Et sachant que un des principes, c'est qu'au fur et à mesure que vous allez emmagasiner des artefacts, parce que bien sûr, comme c'est dirigiste, vous allez forcément les emmagasiner, en réalité, ça fait forcément baisser vos pourcentages, je crois, au fur et à mesure, de santé mentale ou de pouvoir ou quelque chose comme ça. C'est
d'idées aussi.
Qui fait que, bien sûr, pour justifier de façon totalement linéaire le fait qu'on monte dans l'onirisme, on vous fait décroître au fur et à mesure certaines compétences, prenant comme partie que vous êtes un peu con et que vous n'allez pas vous douter qu'en vous débarrassant de ces artefacts, vous retrouveriez votre santé mentale de début. Donc vous allez bêtement vous les trimballer pendant toute la campagne en les empilant dans votre mal. Et le pitch est, ça je le concède, bien sûr, un peu stit. Le pitch est ça, c'est retrouver les morceaux pour le grand méchant du scénar qui à la fin vous dire ah, merci et vous tuer. C'est son but à la fin, c'est quand même de vous tuer. Parce que au-delà de la trame, il faut savoir que ça fait quand même partie des campagnes les plus meurtrières. C'est-à-dire que vous allez vous battre contre en plus des entités qu'on ne connaît pas. Déjà, quand on vous sort des lois gore, pour à combattre. Vous imaginez que c'est impossible à buter. De toute façon, la seule solution, bon, je pense que c'est indiqué dans le scénario, hein, désolé des sprites, mais c'est de fuir. Parce que
oui.
les Loagors, je vous rappelle qu'ils peuvent contrôler les pierres et tout ça, donc c'est mort.
Et les tourbillons qui font un des 100 points de dégâts.
Voilà. Donc voilà, le pitch, c'est ça. Sachant que, comme je vous l'ai dit au début, et l'a rappelé Fox, au fur et à mesure de la campagne, alors il y a des trucs par contre qui n'ont rien à voir, et on se demande pourquoi ils étaient rajoutés là, notamment à un moment donné, le pitch d'un des scénarios, je crois que c'est en Italie, vous devez défendre un couple ou sauver un couple qui est poursuivi par les chemises noires.
Venise.
Je me rappelle que ce scénario-là, on n'avait pas très très bien compris ce que ça venait foutre là. Et pour ne rien vous cacher, ce dont j'ai un peu peur, alors peut-être que pour des gens non linéaires, c'est peut-être plus intéressant, et ça je dis ça en toute honnêteté, c'est que dans la version de Sans Détour, ils ont rajouté beaucoup de scénarios dans d'autres époques. Où, par exemple, à l'heure actuelle, on essaie de démanteler une secte qui essaie de faire revivre l'écorché, ou à une autre époque, par exemple, Cthulhu Invictus, un chef de guerre, je crois, essaie de trouver un des morceaux du simulacre pour lui donner la puissance et vaincre pendant une bataille ou un truc comme ça.
C'est absolument abominable. Ces gens reprennent ma campagne faite maison, c'est horrible.
Donc, moi personnellement, les scénarios qu'ils ont rajoutés, je suis pas sûr que je les aurais joués. Parce que on va perdre un peu la montée en puissance, je trouve, scénario après scénario. C'est-à-dire que, en plus, il faut jouer avec des prêts tirés, forcément. C'est-à-dire que d'un seul coup, vous étiez en train de jouer à Venise et tout, et vous allez vous retrouver en slibard, en toge et en tongue. Et on va vous dire, bon, maintenant on joue avec tout l'Invictus, tu prends ton bouclier et puis ta petite crête sur la tête.
C'est
et
excellent
hop.
C'est excellent.
Donc voilà. Ouais. Vous imaginez ce que je viens de dire.
En fait, c'est pour moi. Faire jouer la campagne grâce à ça.
Mais clairement, pour des. Je pense que toi, ça te plaira tout à fait, Desprite. Moi, j'ai trouvé ça. J'ai trouvé ça un ajout. Alors, comme toi, tu voyais pas de cohérence à l'origine, ça peut en donner. Alors que moi, comme j'y voyais de la cohérence, je trouve que c'est un ajout qui, justement, brise un peu la montée en puissance et la cohérence de l'aventure.
Ou le mystère, peut-être. Parce que, à mon avis, c'est des scénarios qui doivent expliquer une partie de la campagne. C'est peut-être un peu dommage de déflorer ça.
On croise cette FKR ou des choses comme ça. De toute façon, je les ai pas tous lus. Mais j'ai l'impression que ça fait un peu du rabibochage, quoi. Faut savoir que ces scénarios-là ont été écrits par les Américains. Une visibilité, il y a mieux.
Le fait de faire des scénarios comme ça qui sont complètement décalés ailleurs, ça fait pas perdre un petit peu la ligne de l'Orient Express, qui, je pense, fait quand même le charme de la campagne, c'est bien le cadre. C'est de s'en séparer comme ça.
Le problème, c'est que quand tu regardes, la seule façon de faire autrement, ça aurait été de développer d'autres endroits intéressants où s'arrête le train. Mais comme en les lisant un petit peu, apparemment, ils qualifient les scénarios en disant un petit symbole, une petite iconographie. Si c'est des rails tout droit, c'est un scénario obligatoire qui va droit dans la campagne. Tu vas adorer des sprites. Alors que si c'est un scénario optionnel, ils mettent un aiguillage. Disons, c'est un scénario optionnel, il n'y a pas besoin de le faire pour poursuivre la campagne. Et je trouve que... le problème, c'est que le crossover avec les époques, je trouve ça vraiment télescopé, très bizarre. Autant vous voyez un scénario comme peut y en avoir de rajouter dans les masques de Narratotep, genre tu mènes l'enquête, tu pars sur une fausse piste, mais qui est assez crédible. Et puis tu mènes l'enquête, tu vas au bout de l'enquête, tu tombes sur le peuple serpent et hop, tu reviens. Autant là, je suis pas sûr qu'ils expliquent vraiment de façon cohérente comment on se retrouve dans une époque autre. On fait plutôt un fondu enchaîné à Star Wars, quoi.
C'est une parenthèse temporelle, quoi. Enfin, pendant un moment, on accepte de jouer des personnages qui n'ont rien à voir avec l'intrigue principale pour que c'est une sorte de comment dire. De méta-message, c'est-à-dire que on va livrer aux joueurs quelques informations qui vont leur permettre de mieux comprendre l'intrigue, mais dont ils ne pourront pas se servir pour leur personnage.
T'as dû adorer Star Wars, toi.
Ben,
pendant ce temps, sur l'étoile de la mort.
Ouais, bah,
je
en
sais
fait...
qu'ils sont sur Tatooine.
Alors, visiblement, bon, t'as peut-être jamais testé le truc. Comme je t'ai dit, je bosse sur une campagne où on a des épisodes comme ça, mais ça s'inscrit dans les thématiques. C'est bien. Comment dire, ça vient pas comme un cheveu sur la soupe ou un rajout facultatif. Au début, j'étais un petit peu sceptique parce que c'est un gars avec lequel j'écris la campagne qui m'a proposé. Et en fait, les joueurs étaient fin fous. Au début, ils ont rien capté, rien calé. Et finalement, ils ont adoré. Et on a notamment une époque Invictus. Enfin, j'ai même pas habité avant ça que Invictus existait, mais c'est un scénario qui se passe à l'époque romaine. Et c'est vrai qu'ils ont bien aimé. Par contre, le problème avec ces scénarios, et ça je le concède, c'est que ça peut essouffler une campagne quand il faut se souvenir de ce qui s'est passé dans la trame principale ou quand on est dans un moment intense avec beaucoup de choses.
Et puis, surtout
je te conseille juste d'essayer pour une fois, par curiosité.
Surtout que justement, pour abonder aussi dans ton sens par rapport à cette campagne, moi je pense que plus vite tu fais passer les épisodes, mieux c'est, parce que ça évite de voir trop les gros fils.
Et c'est pour ça que le format que tu as décrit, dans lequel vous jouiez de manière intensive, ça me semble valable pour cette campagne.
Bah nous, ça a été super efficace. Hein.
Vous avez l'impression que ça a favorisé le truc ? Enfin, je sais pas, c'est quoi votre tour ?
Ben moi, il y avait cette pression artificielle qui s'est créée à cause du rythme déjà. Donc tu vois, il y avait vraiment l'impression d'avoir des étapes avec ces différents passages, ces différentes escales, entre guillemets. Donc le rythme était quasiment imposé par ça. Et en plus, ce qui lui aurait été demandé, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans la campagne, il proposait de faire un carnet qui devait retracer toutes les enquêtes
oui,
pour justement
oui.
justifier le fait que, comme elle est mortelle, il devait retransmettre ou laisser ce carnet à quelqu'un où il était découvert par quelqu'un qui était dans le train. Donc entre la rédaction du carnet au fur et à mesure des épisodes et les scénars qu'on faisait tous les jours, il n'y avait pas moyen de réfléchir, quoi. Donc tous les gros fils, ça a totalement disparu. Et puis c'était assez haletant, voilà. Donc on était vraiment sur un rythme, tu vois, de tambour battant. Et ça correspondait vraiment, tu vois, quand j'en parle, je vois encore, tu vois, les roues des trains qui sont à toute allure avec la vapeur qui sort, la fumée qui sort de la cheminée, voilà. Hein, c'est vraiment ce que ça me redonne comme idée.
C'est peut-être le truc manquant, en fait. C'est peut-être avec cet ingrédient-là que tout le reste s'emboîte. Je sais pas.
Ouais. Mais enfin. De toute façon, soyons clairs, ne la joue pas des sprites parce que tu seras vachement déçu. De ce que j'ai bien compris, au-delà des excès de l'un ou des autres, tu la joues pas. Enfin, je te le conseille. Après, tu peux la jouer si tu veux, mais moi, c'est une campagne qui, tu vois, c'est un peu comme, c'est ce que je voudrais faire sur Toc au bout d'un moment, c'est de dire telle chose, telle campagne. Un tel l'a aimé, un tel l'a pas aimé, et voilà ce qu'il a aimé d'autre, voilà ce qu'il a pas aimé d'autre. C'est-à-dire que c'est parce qu'il y a plein de façons de jouer, et de se dire, bah, si j'ai aimé, par exemple, les masques, et que Vonville a aimé les masques, bah tiens, je vais aller voir ce qu'il a aimé d'autre. Parce que c'est un peu. Alors c'est pas forcément dans le même style.
C'est pas mal.
C'est ce qu'il faisait dans Ciné Live, par exemple,
oui.
Où ils disent, voilà, si vous avez. Moi j'ai aimé ça, mais j'ai aussi aimé ça. Comme ça, ça donne un peu une idée. Et ça va au-delà du est-ce qu'il aime le narrativisme, est-ce qu'il aime le dirigisme, est-ce qu'il aime. Parce que, enfin, soit dit en passant, soyons clairs, moi je suis le premier dans tous les scénarios qu'on nous envoie sur Toc à gueuler sur le côté linéaire. Donc c'est vrai que c'est. Mais très honnêtement, le côté vraiment onirisme de cette campagne. Je vois qu'apparemment ils sont rajoutés des scénarios en plus dans les contrées du rêve. Ça peut être intéressant. Moi, je sais pas jouer dans les contrées du rêve perso. Là, je sais pas trop ce que ça donne. Parce que j'ai un peu l'impression que les scénarios là sont vraiment catapultés, quoi. C'est-à-dire que on repart à zéro et on se catapulte dans une autre époque.
Ça fait vraiment peur plus de scénar parce que je pense qu'à un moment la ficelle devient grosse quand même.
Hein. C'est ça le problème, mais c'est de se dire. Alors après, c'est peut-être que justement à la réécriture, les gens ont trouvé que c'était trop linéaire et de se dire, on va essayer d'expliquer et donner du sens à certains trucs en faisant des scénars annexes dans le futur, dans le passé pour expliquer des choses. C'est peut-être l'idée qu'il y a derrière, quoi.
Ouais, ça me semble bizarre comme approche, faudra juger sur pièce. Mais je vois pas comment est-ce que on fait de quelque chose de droit un enchevêtrement complexe avec
Ouais, puis...
des rajouts, tu vois.
Ouais, et puis il faut l'assumer, quoi. Je veux dire, ça fait partie du parti pris de la campagne.
Oui. J'aurais plutôt assumé dans ce cas-là pleinement la linéarité, mais peut-être gommer les moments où le dirigisme est trop
Et
important.
flagrant.
Ouais. Et un peu baisser les scripts aussi. Les rendre moins longs ou moins nombreux. Je pense notamment ben, ce passage avec la Contrée des rêves où chaque fois qu'on tombe dans un endroit, on assiste à une nouvelle scène comme à Euro Disney, tu vois.
Ça, j'ai un peu peur que finalement, ça rajoute pas vraiment à ce qui faisait finalement l'élément fondateur de la campagne à l'origine, quoi. Donc, je sais pas trop. Je le parcours un peu, mais ça fait un peu rajout pour faire de la page, quoi.
En fait, je me demande s'il aurait pas fallu l'alléger. Tu
Peut-être.
vois, virer par exemple le scénario amoureux à Venise, faire plus de trucs facultatifs, et peut-être donner une vraie impression, enfin comment dire, une impulsion sur le péchu. Tu vois, pour que ce que vous avez fait peut-être intuitivement, le côté tambour battant, qu'on le formalise plus, qu'on l'écrive plus, qu'on dise allez-y, le train siffle, les joueurs régulièrement ont peur de manquer le train quand il démarre, les joueurs passent pas 10 ans dans les bibliothèques, on trouve d'autres
Alors,
moyens pour leur filer les infos, tu vois, je sais pas.
soyons très honnêtes, vu qu'il y a quand même 700 pages de campagne, peut-être que les trucs
Non.
que toi, les si, au total, sans les aides de jeu,
Ils ont triplé.
je crois, ouais. Sachant que toi ou Dark Keeper, ce qui vous manque, peut-être c'est des alternatives, peut-être qu'elles sont dans cette version-là. Peut-être que dans cette version, je ne l'ai pas lu, hein, parce que c'est un peu long, j'ai pas que ça à foutre. Et le truc, c'est que peut-être qu'il y a plus d'explications et peut-être plus d'alternatives, l'avenir nous le dira. Mais bah, j'ai un peu peur que ce soit juste du descriptif et puis des. Par contre, c'est vrai que la maquette est. Enfin, c'est la maquette classique de Sans Détour, mais les illustrations sont assez top. Puis combien ça fait en tout de scénar, mais ça fait un paquet de scénarios au total. Bon, surtout, je suis honnête, je suis assez d'accord avec toi, Desprez, c'est que les campagnes. Enfin, ça c'est une vision personnelle de joueur un peu, je dirais, standard comme je suis, mais les campagnes qui tiennent vraiment sur la grosse grosse longueur, elles sont très rares. Et des campagnes qui
Ouais,
vraiment vont
complètement
tenir
d'accord.
sur des dizaines d'heures, sauf de les jouer comme Dee Fox, ou moi je les jouais quand j'étais étudiant, c'est allez, on se fait un marathon 48 heures, on bouffe que des pizzas et puis on fonce. Ouais, à notre époque, tenir en haleine des joueurs. Vous allez peut-être me rétorquer que des campagnes ouvertes comme celle de Trail of Cthulhu et tout ça, ou tu sais, c'est que tu avais décrit des sprites, peuvent
Ouais.
peut-être tenir sur des dizaines d'heures, je sais pas, je les ai pas jouées, mais un scénario écrit de façon structurée, comme on peut en parler là, de façon linéaire, des dizaines d'heures,
Ben, je pense qu'il faut un fil rouge efficace, il faut un truc qui intrigue les joueurs et
Ouais.
qui les pousse à poursuivre, quoi. C'est-à-dire que je recherche les pièces du simulacre, d'accord, mais je veux dire, personnellement,
Imagine-toi,
tu me feras.
un
C'est
mec
comme une série
empoisonné.
TV, quoi.
Un mec empoisonné, il lui reste 25 jours à vivre. Ils doivent absolument arriver à la fin avant les 25 jours. Tu sais, un countdown, qu'est-ce que t'en penses?
Ouais.
C'est pas mal, ça.
Mais ça, le problème, c'est que dès le début, ça ferait trop tôt. Dès le début, ça ferait trop tôt, parce que moi, je me rappelle, si tu joues les masques et si tu as quelqu'un qui est un petit peu branché astronomie, comme il peut aller voir les différents trucs, il peut aller voir que la prochaine éclipse, alors ok, hein, c'est un peu tiré par les cheveux, mais il peut tout à fait se dire que la prochaine éclipse, parce que normalement, dans les masques, la fin, c'est censé être autour d'une éclipse,
Ouais.
il peut se dire, putain, la prochaine éclipse, il va se passer un truc. Donc, le truc du compte à rebours, moi, je l'ai déjà testé, ça marche hyper bien sur des scénars courts. Sur des scénars longs, au bout d'un moment, est-ce que les joueurs vont pas se dire, bon, on va te tuer maintenant, hein, comme ça tu vas moins souffrir. Mais au moins, ça va nous laisser du temps. Ce que je veux dire, c'est que, par contre, je suis assez d'accord avec vous, mais pour faire durer dans ce cas-là, il faudrait qu'il rajoute, par exemple, des faux éléments du simulacre. Par exemple, je sais pas, la fraternité de la chair en a trouvé, les a reproduits, et au fur et à mesure, les switch. qu'à la fin, tu laisses les joueurs galérer, à essayer de se planquer, à perdre leur santé mentale, à faire le sort, et puis à s'apercevoir que alors, finalement c'est du toc, leur truc, c'est la pâte à modeler, quoi. Mais pour moi, le faire durer plus longtemps avec cette intrigue-là, c'est sans rajouter de choses, c'est difficile et
ouais,
c'est
risqué.
Voilà, et c'est un peu ce que fait Sans Détour sur certains scénarios. Et autant pour la partie Australie, j'ai pas eu l'impression qu'on l'ait fait, autant pour d'autres parties, j'ai eu un peu l'impression qu'on l'ait fait pour les masques, c'est-à-dire il y avait de la sauce et finalement on l'a battu, donc il y a des petites bulles d'air dedans, donc ça fait plus de volume visuellement, mais en réalité il y a toujours autant de sauce, quoi. Et si ça retombe, bah finalement t'as toujours la même matière, donc c'est un peu faux. C'est un peu du scénar additionnel pour le scénar additionnel. Et pas un scénar qui finalement décuple la campagne ou en fait une aventure vraiment terrible. Donc j'ai un peu peur de ça maintenant.
Ouais. Et puis aussi, en fait, ces rajouts, d'après ce que je comprends, c'est les scénars en plus. Visiblement, quand tu fais les scénars en plus, ton objectif, enfin, tu peux avoir plus d'objectifs. Pour là, j'imagine que c'est pour mieux comprendre ce qui se passe ou pour mieux insister sur l'importance de certaines choses ou certaines personnes. Je suis pas certain que ça soit, comment dire, on est en train d'arroser les plantes alors qu'il y a le feu dans la baraque. Je suis pas certain que le problème ça soit que les gens comprennent mal ce qui se passe, parce que d'après ce que tu décris, cette perte de pied dans l'onirisme et la réalité qui semble petit à petit se désagréger, c'est vachement intéressant. Donc si tu expliques ce qui est en train de se désagréger et ce qui est de plus en plus flou, tu perds en qualité. Je pense qu'ils auraient mieux fait de s'attacher à des défauts plus évidents, enfin en tout cas je parle pour mon église, plutôt que de rallonger la sauce et d'essayer de mieux expliquer.
Et surtout le gros problème qui est lié à ce que tu viens de dire, que je te déconseille encore plus de faire cette campagne, sachant les joueurs que tu m'as décrit que tu es en face de toi, parce que il faut des joueurs qui réfléchissent pas vraiment trop.
Faut être un peu c'est foutu.
Faut être un peu con. C'est-à-dire que si vraiment tu réfléchis, au bout d'un moment tu vas dire mais attends putain, on va le désosser cet Orient Express. On va partir de la locomotive, on va aller au cul et on va faire cabine après cabine.
Tout à fait.
Et s'il y a un problème, on va le savoir. Tu vois, tes joueurs, je pense qu'ils seraient capables de faire ça au bout d'un moment. Mais c'est vrai, sur le coup, nous, pris dans l'onirisme, dans le machin, dans le côté peut-être qu'on accepte la linéarité, on s'est jamais posé la question. Et on s'est retrouvé comme des cons en disant à la fin, oh putain, le salopard, il était déjà à l'intérieur du train. On l'a même pas vu. Et on s'est fait gauler comme des Mickey.
Et donc, je suis sûr que le rythme a favorisé ça aussi.
Exactement.
Vous étiez pas de je pense que vous étiez tenu en haleine et vous aviez pas le temps de faire 10 000 suppositions, non, Fox?
Moi, ça a été le cas pour mon groupe. Hein. Ça a été clairement ça.
Nous, on aurait pu réfléchir. Et le truc en plus, c'est que je pense que ces scénars extérieurs qui finalement vont mettre le focus sur ces Defkar, Mehmet Makriat qui est le grand méchant, vont finalement te plus faire réfléchir les joueurs, et je trouve que c'est encore
retomber
plus
la sauce.
Ouais, puis c'est encore plus risqué parce qu'ils vont reprendre du recul.
Ils vont cogiter.
Voilà.
Ouais,
ils vont se dire mais c'est bizarre, on a toujours l'impression qu'il est un peu devant nous. Il était dans le train et là putain, là je suis d'accord avec toi, Desprite, c'est que là dans le scénario, je crois pas que ce soit mis comment s'en sortir s'ils essaient de chercher les morceaux dans le train. Et c'est con parce que après tu peux toujours trouver des artifices tout pourris pour dire le wagon est pas là et tout ça, mais c'est le rythme joue beaucoup, comme disait Fox, et finalement sa façon de le jouer, ou c'est pas la façon idéale, mais je pense que c'est quand même une très bonne façon du fait que ben c'est ça, plus tu vas vite, on le voit quand on regarde sur le bord de la route quand on est en voiture. Si on regarde bien, on va avoir des poteaux télégraphiques et un fil, mais au bout d'un moment, si on regarde juste le fil, on voit plus les poteaux télégraphiques. Donc avec la vitesse, finalement, on verra pas les passages de scénar en scénar un peu moche, peut-être, un peu poussif. Si on a un rythme qui est assez rapide pour se dire « Ah putain, c'est l'Orient Express, ça fonce !» Et c'est vrai que moi, je me rappelle que quand on l'avait joué, on avait toujours l'impression que quand on allait retrouver l'Orient Express, il était à deux doigts de se barrer. Alors que c'est complètement faux, parce que si on avait été boire un café, le MJ leur a dit « Bon, ok, il fait chouchou, mais c'est juste pour essayer le chouchou. » Et une heure plus tard, il part avec vous. Mais c'est vrai, sur le coup, t'as cette impression-là, tu te dis « Ah putain, vite, dépêchons-nous !» Et en plus, ce que je disais au début, il y a aussi l'impression qu'on qu'on essaie de te donner, que l'Orient Express, finalement, c'est un... Comme il permet de fuir à chaque fois, chaque endroit, c'est un peu un refuge. Je me rappelle la première, enfin, un des scénars quand on se fait poursuivre là, par la maison de Baba Yaga. On était en train de prendre genre un brandy dans un salon, dans un des wagons. Et quand on a vu le truc nous poursuivre, on s'est dit putain, on n'est même pas à l'abri là-dedans, quoi. Et franchement, on avait flippé notre race, qu'on s'est dit, parce que bah, c'est un peu ta maison après l'Orient Express, quoi. T'as ta cabine, t'as ton conducteur qui est dans chaque wagon, qui est là pour faire tout ce que tu veux. Enfin bon. Et puis, il faut le savoir, c'est que le scénario lui-même, c'est un scénario pour fils à papa, quoi. C'est-à-dire que on va jamais trop étudier le fait que tu puisses aller voir les gens, aller discuter avec les pouilleux, quoi. Et tu bouffes dans des endroits classe, tu discutes avec des gens classe, tu discutes avec des célébrités.
Mais ça, je me demande si c'est pas une histoire de couleur en fait. Je veux dire, par exemple, si vous voulez jouer un scénario du mythe de Cthulhu dans les hautes instances du gouvernement, eh ben faut le dire dès le début, ça va se passer à tel endroit où, pour des raisons de crédibilité, il faudrait que vous ayez une raison d'y être.
Exactement. C'est un peu l'idée, c'est-à-dire on va un peu guider la création des personnages pour qu'ils aient. Enfin voilà, faut pas que ce soit un péquenaud qui se retrouve dans l'Orient Express, qui va mettre ses pieds sur les banquettes, qui va coller ses crottes de nez sous la table, quoi. Enfin,
C'est
nous,
ça,
je me
quoi.
rappelle quand on l'avait joué dans le cadre de la campagne, c'est pas forcément ce qu'on jouait à chaque fois comme personnage, mais on avait pris des personnages assez classe, qui vont pas avoir de Thompson, qui vont pas être forcément armés, et qui vont peut-être avoir des réflexes mondains plutôt que des réflexes à la Agatha Christie ou à l'appel au Cthulhu, quoi. C'est-à-dire que, enfin, je me rappelle que ça avait assez bien marché. Quand on était arrivé à la Scala de Milan, on était content de visiter la Scala pour la Scala, mais pas pour l'enquête, quoi. On était là, oh, formidable, ah, mais regardez, tout ça. Puis là, il y avait le MJ qui nous disait, non, mais on avance là. Parce que, voilà, c'est vrai que les personnages sont. Je me demande s'ils vous filent pas des prêts tirés. Plus trop, si je crois qu'il y a des prêts tirés, ils ont fait
Dans la
des prêts
nouvelle
tirés.
édition?
Ouais, je crois qu'ils ont fait des prêts tirés suite au Kickstarter. Il y a plein de gens qui ont donné plein d'argent. Et ben ils ont dit, comme t'es gentil, t'as plein d'argent, je vais faire des prêts tirés.
Version américaine?
Je sais plus.
Parce que dans la version
Je...
américaine, des goodies, il y a tout et n'importe quoi en passant des mugs, des t-shirts, des miniatures, des passeports, qu'est-ce qu'il y a encore?
Des casquettes, non,
Des
comment?
médaillons,
Valise.
ouais. Il y a un roman,
Des
il y
slips.
a Dining Car Kit, ce qui doit être, je pense, je sais pas, un plateau pour manger dans le train.
Bah je sais qu'il y en avait qui voulaient ouais, qui recherchaient des aides de jeu toutes pourries, ouais. Et alors, ce qui rajoute aussi un truc, je sais pas si ça y est dans la première édition, mais moi je déteste les bons sentiments. Et le gros problème du Kickstarter, c'est qu'au début des Kickstarter, les gens ont tendance à remercier tous ceux qui ont participé à la campagne. Et je crois que ça dure environ 5 ou 6 pages.
Ah putain.
Donc
Oh Dieu.
ils remercient celui qui a acheté le lait, celui qui a acheté les cookies, celui qui a inventé le cookie, celui qui a inventé le four, celui qui a trouvé le feu la première fois, celui qui a tapé sur le mec parce que la première fois pour choper le feu au premier mec.
Putain, renvoyez-moi dans le passé,
Non mais ne parlons pas de celui qui a trouvé comment on obtenait du lait.
Et alors, il sous-tend derrière que il y a une partie qui inclut les grands de nouveautés de la 7e édition des règles de l'appel au Toulouse. Notamment deux, trois trucs, notamment la possibilité de modifier les tests de compétences ou en investissant de la volonté, des choses comme ça. Enfin,
Putain.
il y a quelques rajouts un peu bizarroïdes. Et puis comme, mais bon, ça, paix à son âme, Lynn Willis, je crois que c'est lui, hein, est mort un peu autour de... Ouais, c'est ça. Un peu autour de la période, et qu'il avait retravaillé sur le Quistarter, je crois qu'ils l'ont, ils le remercient, et puis c'est ouais, c'est ça, il est mort en 2013, donc c'est dédié à sa mémoire. C'est ce qui est normal, mais le problème, c'est que les remerciements, mais ça dure des plombasses de plombasses. Mais en même temps, les gens qui ont participé au Quistarter sont contents parce que leur nom apparaît dedans. Ça,
Ouais, un trip
c'est un
de
peu normal.
collectionneur, ça.
Voilà. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres pans de la campagne à regarder? Je réfléchis. Oh, il y a des illustrations qu'ils ont gardées dans la version là, de Sans Détour qui sont assez bizarres. Notamment, il y avait des espèces de dessins un peu pourris de la locomotive, de l'intérieur de la locomotive.
Ah oui, celle qui est au début de la campagne.
Ben voilà, il y a pareil dans celle de Sans Détour. Donc pour une campagne à 109 euros, c'est un peu bizarre.
Ils auraient pu prendre une photographie, quoi.
Ouais, et puis ouais, c'est ça. Et puis pour certaines illustrations de personnages de PNJ, comme c'est rajouté de la version américaine, je pense qu'ils ont repris les illustrations d'origine. Alors que je trouve que d'habitude, Sans Détour fait du super boulot avec les photos d'époque. Donc il y a certains trucs, ça fait un petit peu. Ça fait un petit peu, je trouve, comme ce qu'il y avait dans Delta Green quand ils ont essayé de le mettre au goût du jour. Ça fait un peu
Ouais.
rajout dernière minute, on a mis un scotch et puis on vous rajoute 3 pages. Donc ça ne dérange pas en soi, mais dans une campagne à 109 euros, si. Soyons honnêtes, si. Donc voilà un peu, je sais pas si vous avez d'autres sujets à aborder sur la campagne.
Moi, il y avait un petit truc, mais je sais pas si d'autres ont plus
Ah,
intéressant à proposer. C'était sur les contrées du rêve. Vous avez d'autres trucs?
Shining nous demande, est-ce que dans cette campagne il y a moyen de placer un traître parmi les joueurs?
Alors, oui, je te dirais que toujours, ça peut tout à fait être faisable. Alors, dans ces cas-là, pour éviter les trucs à la Scooby-Doo, les trucs à la Mission Impossible, où le mec retire 4 masques l'un après l'autre, tu sais plus qui il est, le mieux, ça serait de faire un allié, de créer un allié du grand méchant de la Légion.
Ouais, après le mec, s'il arrive à tenir toute la campagne jusqu'à la fin, il se fait étriper.
Oui.
Physiquement, le
Ouais.
joueur.
Ouais.
Ouais. C'est toujours le problème avec les traîtres, c'est que les joueurs ont tendance à mal le prendre.
Ouais, mais
Par contre,
vu la campagne, est-ce qu'il y a besoin de mettre un traître dans ce genre de campagne?
non,
Je
je
pense
pense
pas.
pas.
Hein.
Pour moi, c'est un
Moi,
peu
c'est déjà
chaud.
assez.
Je ne laisserai pas jouer.
Je pense que ça serait trop. Ouais, ça serait un peu délicat.
Et non, et puis à mon avis, si le mec arrive vend trop vite la mèche, ça casse la fin.
Oui.
Ouais, puis lui, enfin, il va peut-être s'amuser au début, mais je suis pas sûr que tu t'amuses sur toute une campagne à chercher tes
À être un
joueurs, quoi.
traître, ouais.
Je sais pas. Je suis pas pour. À voir maintenant si dans tes équipes Shining, t'as toujours le mec qui veut être le traître.
Ouais, mais je pense qu'au bout d'un moment, les autres joueurs le connaissent, donc ça ne marche pas de 36 fois.
Voilà, ils lui font plus confiance, quoi. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou pas? J'ai pas regardé. Canning, il en posait d'autres sur le. Ok.
Ouais, bon, il a parlé de la grande chasse, hein. Je dis ça, je dis rien.
Oh la balance! La balance!
Ouais, c'est vrai, hein.
Putain, c'était où ça?
23h35.
Ah oui!
Voilà.
Merci Shining.
Donc tu voulais parler des contrées du rêve, c'est ça, des sprites?
Ouais, en fait, je voulais avoir votre impression sur les contrées du rêve. Je vous explique, j'ai l'impression que la présentation des contrées du rêve dans l'Orient Express est vraiment différente de celle auxquelles on est habitué. Quand je parle contrées des rêves, en général, je vois des espaces très vastes qui communiquent avec plein d'autres endroits. J'avais plutôt l'impression que dans l'Orient Express, c'était des sortes de bulles de contrées du rêve. Vous en pensez quoi?
Bah oui, parce que t'as Lausanne par exemple, c'est pas du tout, c'est plutôt effectivement un milieu onirique qui est en dehors des contrées du rêve habituellement créées par Lovecraft. Ce qui ressort encore plus cet aspect, c'est pas du tout Lovecraftien cette campagne.
Ouais.
Je suis assez d'accord avec toi, et c'est vrai que tes sprites, t'as raison, c'est que plus que. Enfin, ils sont appelés ça les contrées du rêve parce qu'on vit dans un rêve, mais c'est plus en effet des réalités alternatives oniriques, quoi.
Ouais,
C'est-à-dire
c'est
que,
ça.
voilà,
C'est pas
c'est
vraiment le monde
plus.
des rêves stricto sensu.
Non, puis on ne te demande pas de passer par les différentes étapes du rêve et tout ça, t'y arrives comme ça, quoi. C'est juste l'influence
Plutôt.
de Fenalik et du grand méchant qui est dans le train qui fait que tu switches.
Mais il y a un truc encore. Bon, ça fait longtemps que j'avais pas balancé, donc je vais lui remettre un petit coup quand même. Je
Parce qu'on a
vais pas
presque
me
l'impression
fatiguer.
que tu on a presque l'impression que tu l'aimes bien là cette campagne.
Ah
Ouais,
non,
c'est vrai.
non, c'est toujours une ville saloperie mal construite qui gagnerait à être répandue en recueil de scénario. Mais non, je voulais parler en fait la première fois. Moi, je trouvais que c'était très mal amené la première fois que les contrées du rêve déboulent, c'est quand il tombe sur ce gars inconscient avec des piqûres au bras et de la drogue en fait qui permet aux gens d'aller dans les contrées du rêve. En fait, le gars a un journal avec lui ou des notes dans lesquelles il laisse comprendre aux gens. C'est une aide, comment dire, c'est un journal auquel il est fait référence, mais ce n'est pas une aide de jeu. Donc c'est au MJ de décrire les choses. Et en gros, dans les aides de jeu, on fait comprendre que quand il fait des picous, il voit des trucs dans un autre monde et tout, voilà. Et on laisse les joueurs là-dessus. Et le postulat qui suit, c'est une fois que les joueurs ont pris la drogue, qu'ils l'aient gobée, sniffée, injectée, n'importe quoi, ils se retrouvent dans les contrées du rêve. Moi, ma question, enfin, je crois que c'était mal amené. Je me souviens que quand j'avais joué dans une autre campagne, enfin, le Rejeton d'Azathoth, à un moment, il y a un truc similaire. Je jouais un personnage. Et j'étais plutôt cartésien. Pour moi, c'est des conneries. Il était hors de question que je m'injecte ou que je sniffe ou que je boive quoi que ce soit. Si y a un risque que ça soit du poison. Et en plus, dans la manière dont on en parle dans l'Orient Express, limite on cite les contrées du rêve. Je trouve que c'est mal amené, quoi.
Alors ça c'est, je m'en souviens pas pendant la période de jeu, moi, quand je l'avais joué, et je me souviens pas qu'on se soit injecté quelque chose. Alors je sais pas si c'était démarré autrement en nous faisant boire du thé ou un truc à la con, mais le fait est que enfin c'est le côté contré du rêve, nous le gardien ne les avait jamais cités, il nous avait jamais dit vous passez dans les contrées du rêve. On était dans la Lausanne des rêves, dans la machin des rêves. On n'était jamais entré dans les contrées du rêve. Et
Ouais, finaux, quoi.
puis, parce qu'en plus, les contrées du rêve, moi, j'aime pas du tout. Il y a le côté un peu médiéval, arabisant, enfin exotique. Je trouve ça tout pourri. Et c'est vrai que je me souviens que les périodes de rêve avaient été vraiment sympas, parce que c'était une réalité alternative. Mais alors, le coup des piqûres, c'est ouf. Parce que ça me rappelle rien. Mais ça,
C'est
c'est
vers
pas
le
terrible.
début, je vais essayer de te le trouver. Je me demande si c'est pas à Lausanne. Je cherche.
Ouais, ben c'est vrai, dans ce cadre-là. Enfin, alors, je sais pas, pour les gens qui aiment les contrées du rêve, ils ont peut-être des moyens super intéressants de les amener. Mais à part faire dodo, moi je vois pas trop les façons subtiles. Ou alors si on joue une bande de camés, ou si on va dans une fumerie d'opium pour enquêter, ou un truc comme ça, quoi. Quelque chose qui t'oblige de façon scénaristique à te confronter à une drogue. Mais enfin c'est. Parce que moi par exemple c'est le genre de truc aussi que je déteste, c'est voilà, on te donne une bagouze et t'es censé la mettre à ton doigt. Ah non, moi, dans un
Ouais.
scénario, si je trouve une bagouze, je vais jamais la mettre à mon
Ah, c'est clair.
doigt. Alors, dans ces cas-là, c'est tout bête, il suffit que le MJ soit un peu subtil, il suffit que ce soit juste le contact. Parce que dans ces cas-là, si tu veux pas le porter à ton doigt, tu la mets dans ta poche, ou tu vas l'accrocher à une chaîne, tu la mets autour de ton cou, ou encore pire, ou un truc comme
Ouais.
ça, quoi.
Alors,
Mais...
pour revenir à la question, c'était page 65. Prendre un peu de drogue, c'est pas très long, je vous lis. Le journal explique clairement que pour récupérer le parchemin de la tête, il n'existe qu'un seul moyen, suivre Edgar, encore une fois, un seul moyen, suivre Edgar Wellington dans la Lausanne du rêve en prenant un peu de drogue. Celle-ci peut être administrée par n'importe quel moyen, on peut l'avaler, se l'injecter, se la piquer sur la peau, se la sniffer, se la mettre en suppos. Ouais.
Voilà, effectivement.
Non, c'était pas marqué, mais
Vu
le début, oui.
comment c'est écrit, je pense qu'on a dû le faire. Je suis désolé de te le dire encore, mais
En suppos?
vu que c'est mis dans le scénario et qu'il y avait une aide de jeu qui disait pour le rejoindre, il faut prendre la drogue. Je pense qu'on a dû le faire. Je suis désolé. Nous, on est comme ça, nous. Les scénarios sont une succession de pancartes. Mais après, je dirais, si vraiment t'as compris que le scénario c'était retrouver des éléments et qu'un des éléments on te dit explicitement, ben le seul moyen de le retrouver c'est pour y aller, moi j'irai. Si vraiment il faut.
Ouais, d'accord, mais enfin, tu vois, c'est mal amené, quoi. Ça aurait pu être vachement plus, je sais pas. La Lausanne du
Là,
rêve.
c'est vrai que c'est
Take the red pill, quoi.
le problème c'est que quand tu le lis, c'est mal amené. Mais comme on a dit depuis le début de ce podcast,
Peux l'adapter.
ça peut être très très bien.
Et moi, ils ont même été pires parce que j'avais fait une sorte de flacon où j'avais mélangé des trucs dégueulasses. Je leur avais dit, vous devez en prendre une goutte. Bah, ils l'ont fait, hein.
Mais dans la vraie vie, c'est ça?
Ouais.
La saloperie.
Puis, finalement, ça peut être une bonne solution avec des joueurs un peu genre, ah ouais, moi j'ai la plus grosse. tu les obliges à faire une connerie, comme ça tu masques derrière le côté linéaire.
Et bah, ça a marché. Et ils s'en rappellent encore.
Et il est vrai, hein, pour Dark Keeper et Death Sprite, voilà, ce genre d'idée, on pourrait tout à fait le noter en une phrase. Mais bah voilà, il faut l'avoir fait jouer, il faut. Enfin voilà, le problème, c'est que.
Oh, terrain glissant là.
La réécriture.
Ouais, je suis d'accord.
La réécriture du truc. Soit on prend des expériences et on met des anecdotes pour essayer d'expliquer des façons alternatives. Mais dans ces cas-là, il faut vachement se reposer sur des façons d'avoir joué le truc.
Ouais, c'est comme ça que c'est. Tu sais, bon, il y avait un truc qui était pas mal, justement. Moi, c'était un truc que j'avais loué, c'était dans le Royaume des Ombres. Il y avait ces retours de partie, parce que des fois, dans le Royaume des Ombres, pareil, c'était des fois un peu difficile de voir comment arriver à un point A, un point B. Et il disait, voilà, avec les testeurs, des fois, c'est arrivé ça, ou à l'inverse, c'est arrivé ça, et voilà comment on s'en est sorti. Je sais pas si vous vous rappelez de ça dans cette dans
ce supplément. Si, je me souviens bien. Ouais.
Et ça, c'était bon, par exemple.
Très bien.
Ça pourrait être l'idée, et c'est vrai que par exemple c'est un peu ce qu'on avait essayé de faire sur les masques de Narathotep. Dans la réécriture qu'on a fait avec Sandy Tour,
c'est sur certains passages.
On a peut-être pas réussi à chaque fois, mais sur certains passages, c'est ce qu'on se disait. On disait voilà. Et
la maison
si... Voilà, exactement. Et si, comme moi ça s'est passé pendant la fin, une fois où je l'ai fait jouer, il vous arrive ça, alors une alternative c'est ça. Et tu vois, ce que je veux dire, c'est que c'est dommage que cette campagne passe de bonne campagne à horreur sans nom linéaire, du fait qu'il vous manque ça à vous, des maîtres tels que Dark Keeper ou Death Sprite. C'est dommage que ce manque-là vous enlève tout le potentiel à côté, tu vois. C'est ça que je voulais dire. Je suis d'accord. Moi, le premier, si on met des trucs alternatifs, si j'en trouve un cool, je vais dire putain, il faut absolument que je leur fasse que je les amène discrètement à cette solution-là parce que je la trouve démente. Et j'aurais été le premier à aimer, mais j'ai pas l'impression en plus que dans la version V7, enfin dans la version sans détour, on vous donne beaucoup beaucoup de pistes comme ça, d'alternatives. Et j'ai beau parcourir, j'ai pas l'impression. Balade, ouais, pouf pouf.
C'est une belle conclusion, ça.
Je crois que c'est pareil, parce qu'il est quand même 23h53. Putain, tout le monde va s'être endormi devant le podcast. Enfin, derrière le podcast.
Non, mais c'est vrai que tu as raison, bon, là, sur ce côté-là, tu peux t'adapter, t'es pas obligé d'être fermé. Mais c'est vrai. C'est vrai que c'est mal écrit, quoi. On va dire que c'est mal amené. Voilà.
Et puis, pour certains, il manquera des alternatives qui pourraient être écrites, peut-être de façon succincte. Mais voilà, d'un côté il y a ce manque-là, mais de l'autre côté il y a un potentiel d'onirisme et d'aventure qui est vraiment, pour moi, qui, même s'il manque ça, il faut le faire quand même, au moins le tester, quoi. Ouais. Mais je sais que vous, de votre côté, les détracteurs, vous direz, ce manque-là fait que c'est rédhibitoire, quoi.
C'est comme un excellent cookie au nappage merde, tu vois. Oublie la merde, le cookie à l'intérieur est super bon.
Il nous a encore sorti le couille.
Ah non, avant c'était le super mentier au caca. Maintenant c'est le nappage de merde.
Non, mais après, je veux dire, on peut bosser la campagne. Je veux dire, on peut la faire jouer, il n'y a pas de souci. Mais sans cela, ça va peut-être demander plus d'efforts. Ça va demander donc à nous de trouver des solutions alternatives. Tandis que quand on nous les fournit, ça permet de. C'est plus à l'aise à la lecture. Et tout à l'heure, vous disiez que l'Orient Express est une bonne campagne pour les débutants.
Ah non. Pas fait pour les débutants. Hein.
Voilà, c'est ce que je veux dire.
Pareil.
C'est je trouve, c'est peut-être Au contraire, les débutants, ils auront besoin de plus de pistes pour pour qu'ils puissent se retrouver plus facilement sur leurs pieds en cas de réaction
Non, mais
incongrue
même
des
pour
joueurs.
réagir, pour savoir comment réagir. Là, tout à l'heure, vous
Voilà.
parliez de
Ouais.
la boutique de taxidermie, là. Mais là, j'étais en train de relire, là, c'est page 64, hein, ça tient trois lignes. Si les investigateurs retournent voir Wellington, ils trouvent la boutique fermée et une pancarte fermée sur la porte. Il y a trop de passants et d'enfants pour revenir à l'école pour qu'ils fassent l'effraction. C'est clair que suivant les joueurs que
Bah,
tu
tu
as,
reviens de nuit.
voilà,
C'est clair.
tu peux t'adapter.
Tu
C'est
fais
sûr
une
que.
diversion dans la rue.
Tout à fait. Sauf si
Et
tu
moi,
vas
qu'on
par
passe par
exemple.
derrière.
Le truc, c'est qu'il y a débutants comme gardien et débutants comme joueur. Pour moi, c'est très bien pour un gardien débutant s'il a des joueurs débutants. S'il
Bah,
est un gardien
il faudrait encore qu'il
débutant.
soit talentueux, quoi. Je veux dire,
Ouais,
si ton
oui.
MJ, il est talentueux et débutant avec des joueurs débutants, ils vont
Ah,
probablement
voilà.
s'éclater. Mais là, on revient encore à la critique des pratiques. Tu vois, et on spécule sur des pratiques.
Oui, c'est vrai.
Puis
Co
ben oui,
comment,
mais
comment, comment expliquer à des joueurs, tiens, toi t'es MJ, t'es débutant, mais s'il se trouve que t'as du talent et tu le découvriras en jouant cette campagne, voilà. Mais il est aussi possible que tu te fâches irrémédiablement avec tes joueurs parce qu'ils vont être écœurés du dirigisme de la
clair,
campagne,
quoi.
pensant que c'est toi qui es un MJ dirigiste, et tu vas leur saboter leur trip, ils voyaient des choses à la Agatha Christie, voilà, puis tu leur as servi du piège à rat et des cookies Napage Verte.
Alors. Dans cette idée-là des sprites, est-ce que pour toi l'affaire Armitage, ça peut être conseillé à des débutants?
Pas du tout. Pas du tout, sauf si c'est des gens qui ont des
Donc le problème.
prédispositions. Attends. Sauf si ce sont des
Ouais.
gens qui ont des prédispositions en matière d'improvisation et qui se sentent pas noyés sur des choses qui sont un peu floues. Voilà, si par exemple t'as adoré Lost et que tu t'es pas senti complètement perdu, ou si t'aimes les films de David Lynch, ou si tu fais du théâtre d'impro, alors je te dirais, vas-y,
Et attends,
jette-toi
attends,
là-dedans.
attends, attends, attends. Et je terminerai par, et si tu lis Télérama? Excuse-moi. Si tu lis Télérama, enfin, on en arrive à la conclusion,
Ah
et
non,
c'est
ah
très
non.
bien, tu m'as tout à fait amené là où je voulais arriver, c'est que on arrive à l'élitisme en jeu de rôle.
Ah, oh, ça y est.
Non. Non, 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 non,
Oh
non.
non.
Moi, je pense juste que l'Orient
Mais attends,
Express.
être débutant, c'est pas être une merde.
Le problème, c'est
Non.
que quand t'es débutant, t'es pas conscient de tes capacités.
Mais
Non, non,
si.
je
Mais
pense
je
juste
t'ai.
que
Vas-y,
l'Orient
t'avais peur.
Express et que l'affaire Armitage, c'est deux extrêmes différents
Mais
et qu'il faut
complètement.
savoir faire le geste milieu.
Non, il
Oui,
faut
non, mais
savoir jouer les deux,
c'est.
d'ailleurs.
Non, mais c'est ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'est quand même beaucoup plus abordable Terreur sur Orient Express.
Oui, pour toi.
Oui, pour toi. Et
Parce
vous trouvez que c'est
que.
plus abordable pour un débutant, l'affaire Armitage.
L'affaire Armitage,
Mais t'es pas un
mettons.
débutant, Vonve.
Ah non, non, mais je parle pour un débutant, pour un débutant. Un mec qui
Mais
connaît
non!
rien au jeu de rôle, un mec qui connaît rien du tout au jeu de rôle, honnêtement. Tu vois l'épaisseur des volumes, tu recompares, je peux comprendre qu'il préfère le petit bouquin de l'affaire Armitage
Et
que
entre nous?
les.
Entre nous, la firme Armitage te prend énormément par la main, je le rappelle. Hein. Sur
Oui.
chaque chapitre, ils te font des suggestions, et même, souviens-toi, ils te proposent une trame relativement linéaire que tu peux suivre si tu te sens pas à l'aise avec l'impro. Et chaque personne, chaque chapitre, chaque objet, ils te proposent des solutions pour l'utiliser. Alors,
Ouais, c'est pas bizarre.
je conseillerais pas cette campagne à des débutants, bien évidemment, je suis pas SM, hein. Je suis pas élitiste du tout. Si j'ai affaire à un MJ débutant, je lui conseille une campagne beaucoup plus à sa portée, genre les ombres, éventuellement Azathoth. Non, mais c'est vrai.
Non, même déjà un débutant, tu lui conseilles pas de commencer par une campagne. Il fait d'abord un scénario
Bah
d'initiation, il
oui,
va pas se lancer dans une
c'est
campagne.
vrai, c'est vrai. T'as raison.
Je fais
Mais c'est un
plusieurs
mec,
scénars pour
un
rien,
débutant en
ensuite.
campagne, quoi.
Bon. Sur ces bonnes paroles et sur ces petites remarques d'élitisme.
Nous allons donc
Non,
conclure
mais
sur une
on
note de
fera pas
mauvaise
changer ta
foi.
vie.
Allez voir la critique que Von va laisser sur le grog, vous comprendrez pourquoi il termine
Ah
comme ça.
oui, ah oui, c'est lui qui a dit c'est onirique ou un truc comme ça, non?
Il a mis la meilleure note.
Ah
Ouais,
oui, c'est
pour
vrai.
terreur.
Cette titanesque campagne est, à mon avis, un chef-d'œuvre à élever au rang des masques.
C'est clair.
Complètement différente, elle met l'accent sur les ambiances, dans le train de luxe, dans chacune des villes, dans des moments
Oh,
de
salaud.
délire.
Moi aussi,
Alors là, je pense que tu
je
parlais du caméléon chanteur, de la maison marchante,
Mais
ou de l'arracheur d'œil Kill Bill, quoi.
ce qui est assez marrant, c'est que contrairement à vous qui, je pense, devez renier vos anciens amours quand vous étiez petit avec des pièces aux genoux, moi je trouve que ma critique, je l'assume tout à fait. Je trouve que ça fait partie des monuments et personnellement, dans les campagnes que j'ai jouées, c'est un des tops, quoi.
Tout à fait. Je reste tout à fait sur ma description, hein. C'est le pire.
À la hauteur des masques. Je lis bien, et tu confirmes.
Je dirais même qu'elle est peut-être même meilleure. Waouh. Parce que tenir...
C'est dans la boîte.
Tenir la montée en puissance dans les masques, alors que comme disait Fox, ou je sais plus trop qui, il y a un climax à la fin de chaque scénar, finalement tu repars, alors que dans Terreur, t'as une vraie linéarité de progression.
Mais tu n'es pas obligé de faire tous les climax dans tous les chapitres, et c'était bien précisé dans la première édition, et ça allait bien repréciser dans celle qu'on a faite.
Okay. Dans les masques, c'est t'arrives dans une ville, il y a un désectateur, il est détruit, je vais dans la suivante. Dans Terreur Sans Express, t'as l'artefact à récupérer, mais t'as jamais le même schéma. Au moment où t'arrives dans la ville, t'as jamais le même schéma d'enquête.
C'est pas à cause de cet argument favorable pour l'Orient Express, pour moi en tout cas, que je mets l'Orient Express au même niveau ou au-delà des masques. Voilà, il y a d'autres choses qui font que j'évalue une campagne de manière favorable. Je sais pas pour les autres.
Hein. Ah, ça vous la coupe, la bande de Mariole, vous rigoliez là.
Bon, moi je pense que de toute façon, suivant ton groupe, etc., tu fais ta tambouille, quoi. Tu fais ta cuisine, tu prends le meilleur, tu rejettes le reste.
Faut que ça t'inspire, c'est sûr, tout ça.
Ouais. Voilà. Bon, oh, voilà. On va rester sur la bonne parole de Maître Fox, modérateur, que s'il en est, il faut que ça t'inspire. Donc, messieurs, bien écoutez, je vais vous remercier d'avoir participé à ce long podcast, d'y avoir mis vos tripes, votre sueur, vos cookies, un peu bizarre.
Yes.
Je pense que très honnêtement, avec toutes ces discussions, pour ceux
persévéré, qui ne dorment pas,
voilà, écoutez le podcast depuis le début, vous avez de vrais arguments pour et contre. Donc j'espère que vous serez bien poilés en nous écoutant et que ça vous donne
d'ailleurs des vrais arguments pour et des faux arguments contre, c'est ça que je voulais dire.
C'est con. Bon, sur ces bonnes paroles, messieurs, je vous souhaite une bonne nuit, puis je souhaite aussi une bonne nuit à tous nos amis des podcasts, et donc Fungloui.
Fungloui.
Fungloui. Canceling the apocalypse!